I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello les légendes, bienvenue pour ce 96e épisode enregistré sur le terrain à l'occasion du plus grand tournoi amateur au monde, la National Tennis Cup au Cap d'Agde. J'ai rencontré son directeur Christophe Lesage, ex 15e joueur français et 250e mondial donc à l'ATP au temps des Nastas, Muster et autres morétons. Christophe nous partage l'histoire de ce tournoi mythique et j'en profite pour faire des va-et-vient sur sa carrière qui mériterait un autre épisode à part entière tant elle recèle d'histoires croustillantes. Notre invité qui était un peu le Popeye des bronzés à l'époque de la création de la NTC nous régale avec deux anecdotes notamment sur Yannick Noah, son grand frère de l'époque. Trois immenses merci avant de laisser place à l'épisode. Thierry Ley de la société Flexport qui m'a donné l'idée de couvrir l'événement. Un autre merci à Maya Flore qui m'a aidé à filmer avec un immense sourire pendant 2 jours. Et un tout grand merci, comme disent les Suisses, à la FFT qui a récemment racheté la National Tennis Cup et rendu ce contenu possible. Place maintenant à ce 96e épisode avec Christophe Lesage. Bonne découverte et bonne écoute à tous.
Salut Christophe.
Salut Max.
Comment ça va?
Ouais, bienvenue.
Merci. Je suis au Cap d'Agde sur la NTC. Est-ce que tu peux nous dire c'est la 100e édition et quel est ton rôle précisément?
Bon, alors bienvenue Max, 34e année, okay. National Tennis Cup. On est ici au Centre International de Tennis du Cap d'Agde. Mon rôle, c'est, je suis l'organisateur, le boss depuis sa création, avec mon frère à l'époque. Ouais. Et 34 ans au service de cette épreuve et de nos 700 000 joueurs qui ont participé depuis la première année au National Tennis Cup.
Incroyable. Tu vas nous raconter un peu l'évolution, l'idée d'où c'est venu, comment t'as fait tout ça, mais déjà on va aller faire un petit tour du propriétaire et puis au fur et à mesure de la balade, je te demanderai l'histoire, comment ça a germé, comment c'est venu.
D'accord.
Tu nous emmènes?
Voilà, donc là t'arrives en fait, tu vois, le joueur peut se voir sur l'affiche, on voit son classement, sa région.
Alors, le joueur de l'année en question, c'est ça?
De l'année. Donc tous les joueurs qui sont là, qui jouent le tournoi, sont sur cette banderole.
Et combien de joueurs?
Donc là, il y a 1200 noms.
D'accord. Voilà. Donc là, sur la semaine, vous avez
1200 joueurs.
Wow, incroyable.
Plus le paddle, plus le beach, plus on fait des petites, on fait un peu de fauteuil, tennis fauteuil, on fait plein de choses, plus à peu près 2500 accompagnateurs qui viennent encourager les copains, les familles, les présidents de club.
Semaine de dingue. Et donc le site, c'est l'académie, la French Touch.
Oui.
Ça, on peut en parler ou
Ouais, donc ça c'est le centre historique, c'est le club Pierre Barthès qui a été fondé il y a 40 et quelques années. Et depuis maintenant 4 ans je crois, c'est la French Touch Academy avec Charles Offray qui est venu s'installer ici. Donc qui est une structure privée pour le haut niveau et en même temps pour le loisir, pour les stages d'été et tout ça, qui est à l'intérieur de ce club. Donc il y a la partie club normal, comme un club normal, et la partie privée, disons stage... formation et joueurs professionnels, enfin futurs professionnels.
Et donc cette semaine, c'est une fête du sport incroyable. Il y a des activités dans tous les sens. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres un peu combien d'activités, combien de sports, combien d'hébergements, combien de bières bues,
tout ça? Donc en fait, l'idée, moi, ce que j'aime pas dans le tennis, c'est un joueur qui vient jouer un tournoi, qui perd et puis il prend son sac.
Et ciao,
sans boire un coup, sans convivialité, tout ça. Donc ici, c'est le tournoi, on est au service de ces gens-là. Et on essaye, c'est élimination directe.
Ouais.
Donc beaucoup me disent, mais qu'est-ce que je fais à 9h si je paume le dimanche matin, je rentre chez moi? Je dis non.
Mais précision, c'est par qualification dans toute la France et même dans les dom-toms. Et c'est ensuite des matchs 4 ton classement.
Voilà, dans les qualifs aussi. Donc c'est 90, à peu près 90 qualifications dans toute la France, pas trop mal réparties géographiquement. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas un club à plus de 100 km de chez toi pour faire une qualif.
D'accord.
Et puis, tu te qualifies et puis tu arrives ici pour être le meilleur de France de ton classement.
Ouais.
Et l'idée, c'est une fois que tu as perdu, de ne pas prendre ton sac et t'en aller. Et pour que le gars reste, il faut qu'il y ait une offre, un service sympa. Donc, il y a... beaucoup de gens qui viennent en famille, entre copains, où il y a le club des supporters, le club de mecs qui fait les courses, celui qui fait les apéros, celui qui fait trucs. Et puis, tu as à côté de ça, dès 8h du matin, des échauffements, même gagnés ou perdus, des cours d'entraînement, de la formation, des footings organisés, des courses organisées, les tournois de paddle, des petits tournois de paddle, des P100 en début de semaine, 3 P100, un P250 mixte, et puis pour les meilleurs du paddle, un P1000.
Ouais.
Tu as l'après-midi des tournois de poker, des tournois de
beach volley,
de beach, de tout, voilà. Et chacun trouve son ambit, un double mixte.
Ouais.
T'as un double mixte. Ouais. Ouais, hier, on a fait un double mixte, on était à peu près 300 équipes.
Ouais.
En France, un double mixte de 300 équipes, je ne crois pas que tu en vois tous les jours. Et puis ensuite, tu as la partie nocturne où on essaie d'organiser des soirées en faisant visiter un petit peu, découvrir le Cap.
Ouais.
Ça veut dire des soirées un petit peu sur le port et tout ça, avec des bars partenaires où il y a un gâteau d'anniversaire pour 600 personnes. Après, on offre à tous les participants la grande roue, tu vois, pour visiter le Cap et tout.
Magnifique.
On fait des visites avec un petit train, tu vois, qui fait des découvertes du Cap.
Ouais.
Il faut que les gens, toute la semaine, quel que soit leur âge, trouvent, voilà, ceux qui viennent avec leurs enfants ou leurs petits-enfants, on leur fait découvrir le tennis, le mini-tennis, le tennis évolutif, le tennis intermédiaire, un petit coup de pickleball,
ouais,
un petit peu de... Voilà, l'idée, c'est que tu passes toute ta semaine. Et ensuite, il y a la partie nocturne avec des soirées, tous les soirs, un peu en discothèque, boîte de nuit.
Et les logements sur place.
Voilà. Les logements, on a à peu près 500 appartements,
ouais,
voilà, que l'on propose aux gens. Les gens ne sont pas du tout obligés de prendre nos appartements, voilà, mais on leur donne un service de qualité qui est réservé que à des joueurs de tennis du tournoi. Et en même temps, on est hyper souple. Par exemple, le gars qui se blesse la veille du tournoi, il est remboursé, etc. Si tu es dans des résidences lambda, t'as perdu ton... Voilà. Donc il y a un effet d'état d'esprit, les gens passent par nous parce que tout est bien organisé, on va les chercher à la gare, aux aéroports. L'idée, on en parlera peut-être tout à l'heure, l'idée de départ, elle part de lorsque j'étais joueur de tennis, que j'ai fait le circuit pendant quelques années.
T'as été 15e français.
J'étais 15e français, j'étais à peu près 200-250 à l'ATP.
T'as battu Nastase.
Ouais, j'ai battu des bons joueurs.
Premier numéro mondial historique.
Ouais, j'ai joué.
T'as battu Muster aussi dans ton temps ?
J'ai battu Thomas Muster.
Qui
a gagné dans des tournois un peu de deuxième zone, mais dans, ouais, des tournois ATP, 50, 75 000, 100 000 dollars avant Roland, choses comme ça, où ils sont peut-être pas au top de leur motivation, mais peu importe. J'ai un joueur de tennis avec. Quel que soit l'endroit, machin, il n'aime pas perdre.
Et petite parenthèse, à l'époque, Moreton et Noah, c'était un peu les grands frères.
Oui.
Et toi, tu étais à l'INSEP et tu étais envoyé faire sparring pour eux à Roland-Garros.
Exactement. Ça, c'était le Graal. Hein. Tu vois, on était avec, à l'époque, ma génération, c'était une génération très forte. Hein. C'était Tulane, Lecomte, Potier, Courtois, Pierre Saint-Il, Kuchna, Benabiles, Bernel, Thierry Pham. Enfin, c'était... voilà. Et on s'entraînait à l'INSEP.
J'ai le costaud, si tu nous écoutes.
Voilà, j'ai le costaud. Et bon, tant que nos entraîneurs, c'était, il y avait Jean-Paul Lotte, il y avait Patrice Agelauer, il y avait Jean-Claude Massias, et c'était bon, les gars, demain, il me faut deux qui vont taper la balle avec Yannick. Donc, on prenait le métro, porte de Vincennes, on faisait nos 20 ou 30 stations de métro.
Ouais.
On arrivait là-bas, on courait au truc, et puis, bon, on jouait avec Yannick, avec Gilles et tout ça, on faisait nos 2-3 sets.
Et tu te faisais découper ou ça allait?
Ouais, peu importe, on faisait plein de sets où eux travaillaient peut-être des trucs, des spécificités, des trucs comme ça. La petite anecdote, c'est eux revenaient de... À l'époque, je me souviens, donc on allait dans les vestiaires et tout ça, tu vois, donc c'était machin. Et eux avaient fait des entraînements le matin et ils ramenaient de leur tournoi, tu vois, quand ils allaient aux États-Unis, à Cincinnati, machin, ils ramenaient des t-shirts.
Okay.
Et nous, on s'entraînait, ils mettaient les t-shirts à sécher dans le vestiaire. Et on chourait le t-shirt.
Salopard. Rends la collection, Christophe.
Tu sais, c'était des beaux t-shirts. Et nous, c'était...
T'as ouvert un musée depuis.
Tu revenais à l'INSEP et tout, t'avais chopé le t-shirt de Cincinnati, de Yannick ou de machin. C'était le... Donc c'était des moments voilà, formidables. Donc aujourd'hui, quand je retrouve Gilles Moreton, président de la Fédé, et que moi j'organise un tournoi comme ça, et quand je lui parle, je veux dire, on parle le même langage, hein, on parle la même langue. Gilles, il a été joueur, il a eu des académies de tennis, il a été chef d'entreprise, donc il coche toutes les cases, et quand on se parle, c'est le même langage. Et ici, j'ai même pas eu besoin de lui vendre. Il est venu ici 2 jours il y a 4 ans,
right,
quand il était président de la Ligue ARA. Et au bout de... il est venu ici, il m'a dit, tu fais notre boulot. Il m'a dit, attends, mais qu'est-ce qu'on fout de pas être derrière toi? Donc si jamais je suis aux affaires ou... Et puis il s'est présenté président de la Fédé.
Ouais.
Il est venu ici faire sa première préparation avec tous les présidents de Ligue pour prendre la Fédération française. Et tous ces présidents de ligue ont vu ça et ont dit, mais on est merci Christophe, excuse-nous de jamais t'avoir aidé. On est passé à côté de la plaque pendant très longtemps. Et aujourd'hui, ça va changer. On va mettre la machine de guerre autour de ton événement. Avec une chose qui est primordiale, parce que les clubs et les gens ont toujours peur, c'est de se dire, ah, il y a la Fédé, il y a machin. Ça va changer l'état d'esprit. Donc moi, je vais être le garant de rien changer. Tu as vu ce matin, on a joué. Les gens sont sympas, il y a un état d'esprit. Tu fais le tour des cours. Les mecs se serrent la main, les mecs se couragent, il y a une bonne ambiance. Il faut garder ça. Ça, c'est
l'ADN.
C'est l'ADN, c'est la base et c'est ce que j'aime faire, quoi. Tu vois.
Donc la Fédé a racheté le tournoi il y a combien de temps ?
4 mois.
Ah oui, c'est tout récent.
4 mois. Tu vois, okay. Donc déjà, on a mis pas mal de choses en place. Mais c'est tout jeune, hein, mais le président est venu avant-hier. La machine de guerre va se mettre en route, hein, ouais. dans tous les domaines.
Parce que ce qui est important de préciser, c'est que tu me disais que Roland, c'est un peu la tête d'affiche, c'est la vitrine, c'est l'élite du tennis. Mais,
exactement.
Mais Roland vit aussi grâce à la base du tennis, qui est le tennis dans les clubs, le tennis loisir, mais aussi en compétition.
Oui.
Et ici, on retrouve...
Non, mais c'est même le contraire. Ans. Si tu veux, le haut niveau, c'est 3% du tennis.
Ouais.
97% du tennis, c'est les clubs, la base, les licenciés, les matchs par équipe du dimanche matin 8h, les bénévoles, tout ça c'est 97%. Roland, c'est la vitrine, c'est un tournoi énorme, incroyable, d'une engagement incroyable, fantastique. Et ça permet de financer un petit peu tout ça.
Ouais.
Mais il n'y aurait pas Roland, ça serait difficile de financer, mais il n'y aurait pas tous ces joueurs, il n'y aurait pas de Roland.
Bien sûr.
Donc c'est un tout. Et puis avant, tu me parlais un petit peu de l'état d'esprit, comment ça m'est venu et tout ça.
En fait, est-ce que tu ne nous dirais pas ça en faisant le tour du proprio ?
Ouais, si tu veux.
Qu'on aille voir quand même les,
okay.
les vieux.
Ok.
Allez.
Donc là, à l'entrée, tout le monde sur l'affiche.
Merveilleux.
Voilà.
Donc, il manque juste mon nom.
Après, bon, tu rentres dans le club, voilà, comme ça.
Allons-y. Donc toi, tu as joué en quelle année ? Redis-nous.
Écoute,
le circuit.
J'ai joué, donc j'étais à l'INSEP. Donc 72, 75. J'ai fait l'ouverture d'INSEP en fait,
ouais.
La première année. Donc c'est il y a 44 ans, un truc comme ça.
Ah, t'étais la toute première année,
toute
d'accord.
Première édition.
Incroyable.
D'accord. On était les pionniers de l'INSEP tennis.
D'accord.
Voilà. Et ensuite, donc là t'arrives, le pro shop du club. Et une autre partie qui est notre village, notre cœur de vie du tournoi.
Le prochain, on peut. Bon, on passera tout à l'heure.
On peut passer, on peut revenir en allant sur les cours.
Ouais, très bien. Et qu'est-ce que tu ressentais d'être choisi pour cette première édition de l'INSEP ?
Bah, j'avais 12-13 ans.
Ouais.
Je m'entraînais dans mon club. J'ai jamais été dans les bons tout de suite, tu vois. Au tennis, je m'y suis mis. J'étais dans un environnement et dans un club tout petit, ouais. Mais je faisais du foot, du judo, du tennis, tu vois, plein de choses comme ça. Et puis tout d'un coup, c'est le tennis qui a un petit peu pris le dessus. On m'a repéré un petit peu, et puis je suis rentré à l'INSEP. J'étais non classé, hein, donc j'étais pas parmi les bons. Ouais. Et puis c'est parti comme ça, hein, c'est parti.
Ok, donc là, tous les joueurs qui viennent des quatre coins de la France arrivent ici. C'est marqué tennis paddle en énorme. Ils sont à l'entrée du complexe. Ils sont excités comme jamais. Montre-nous un peu à l'intérieur comment ça se présente.
Voilà, donc c'est parti. Tu arrives là, de toute la France. Bon, tu as des gens qui sont déjà venus, mais tu as qui vont découvrir un nouveau club, des nouvelles
ouais.
installations.
Ouais.
Et puis tu as le gars qui vient pour la première année, des personnes là. Tu sais pas où tu arrives là. Et là, tu arrives dans un magnifique. Une nouvelle structure
ouais.
qui fait à peu près 5000 mètres carrés. Avec sur la droite. 4 cours magnifiques de paddle, 2 cours de tennis pour la formation.
Ouais.
Donc voilà, tu arrives là. Sympa, tu es déjà tout de suite.
Dans le bain.
Voilà, tu franchis la porte, tu es dans le bain, tu vois plein de monde et tout ça. Tu te dis waouh. Et puis tu arrives à l'accueil joueur. Voilà, donc tu arrives. Finalement, le temps d'arriver, tu croises toujours 2-3 potes de ta région, machin, de l'année dernière et tout.
Ouais.
Donc tu voilà, et puis tu fais la queue, sympa, à l'accueil.
Tu m'as pas dit combien ouais, de...
Ah bah voilà,
un exemple tu concret.
Ça va ? Bienvenue.
Bonjour.
Bienvenue.
Maxime, enchanté.
Jean-Marc, on a joué sur le circuit ensemble il y a pas mal d'années.
Énorme. Tu m'as pas dit combien de gens participent au qualif ?
Au qualif, on est à peu près 10, 15, 16, 17, 18 000, voilà, quelque chose comme ça.
Donc, entre 15 et 18 000.
Ouais, donc, wow. Donc cette année, on a encore, on n'a pas eu encore fait tous les comptes de chaque club, de chaque truc, s'ils peuvent nous envoyer tout ça.
Ouais.
Mais ouais, c'est ça. Alors on est monté beaucoup plus haut, puis après c'est descendu. On a un petit peu moins de clubs de qualif.
Ouais.
Mais disons que la moyenne des clubs a augmenté. On a repris 25-30% cette année.
D'accord.
D'augmentation. On avait perdu avec le Covid, les gens qui avaient peur de reprendre la compétition, nouveau système de classement, un peu. Voilà. Et là,
formidable. Je crois que j'ai un petit cadeau d'accueil à récupérer.
Voilà.
Si tu me permets. Hein. Zamora, on va essayer. Voilà, magnifique, je n'y suis pas.
Parce qu'il y a des personnes qui inversent nom et prénom.
Ah, et si on met Max, mais c'est pas dit que je suis inscrit. Hein. Parce que si je suis pas dans le tableau, je suis pas dedans.
Voilà.
Donc est-ce qu'on peut faire un tour?
Donc là, il y a un contrôle.
Ah,
premier contrôle.
Le joueur qui passé la douane, déjà, ça c'est cadeau.
Le joueur qui s'est qualifié, eh ben, il s'est déjà enregistré par Internet.
Ouais.
Et quand il s'est enregistré sur Internet, on lui a envoyé, bravo, maintenant vous êtes inscrit, vous allez vous inscrire sur l'app, l'application du tournoi,
ouais,
qui va vous donner toutes les informations dès votre arrivée. Donc là, normalement, quand tu arrives, si tu es bien qualifié, tu vas apparaître. Voilà.
Allez, avec plaisir. Et ce ruban, il permet quoi ?
Ce ruban, il permet d'accéder à toutes les activités où le pass est obligatoire.
D'accord. Et je peux aller en boîte aussi ?
Si c'est à toutes les soirées et à toutes les activités. Dans
très bien.
Un programme avec,
ouais,
une participation.
Merci beaucoup.
Voilà.
Allez,
merci beaucoup.
À bientôt.
Donc là, tu es enregistré.
Ouais.
On a signalé que tu es là. On a vérifié si tu étais bien connecté à l'app du tournoi.
Ouais.
L'app du tournoi te donne toutes les informations de tout ce qui se passe dans la journée, te donne ta convocation. Si jamais il pleut ou il y a quelque chose, ça te reprogramme. Ça te redonne toutes les informations en live. Si on a un événement de dernière seconde, Yannick Noah arrive dans le village, hop, tout le monde.
Une exhibition, par exemple,
une
Christophe,
exhibition,
Maxime.
Exactement.
Au
ce
hasard.
Matin, on l'a mis une demi-heure avant ou un quart d'heure avant, boum, et puis la tribune s'est remplie.
Ouais.
Et c'est ça pour tout ce qui se passe, tous les événements.
Magnifique.
Alors, ensuite, tu as reçu dans ton dossier.
Tu peux venir derrière.
Donc là, tu reçois un petit programme quand tu rentres, avec quelques informations et tout ça. Et surtout, tu as le programme de tournoi jour par jour, toutes les animations, heure par heure, voilà, pour chaque jour, pour toute la semaine, avec les temps forts à chaque fois. Donc ça te permet aussi d'avoir aussi tu vois, nos restaurants partenaires sur tout le Cap d'Agde,
ouais,
où tu as des réductions sur voilà, les restaurants partenaires, et puis tu as des bons de réduction dans tous ces restaurants partenaires, et tu as un plan aussi de la ville qui te donne où sont ces restaurants, si tu as besoin de réserver, si tu as besoin, donc toutes les informations, les numéros urgents, les numéros du juge arbitre, la pharmacie, l'hôpital, enfin là-dedans tu as
il y a tout ça.
Et tu l'as en même temps sur ton app.
Super. Allez, on continue. Où est-ce que tu nous emmènes?
Donc là tu rentres dans le village, le cœur de vie du tournoi.
Ouais.
Alors ici, à l'année, ce sont 6 cours de tennis.
D'accord.
Voilà. Et pendant cette semaine, c'est transformé, c'est le cœur de vie, avec un podium d'animation, comme tu peux entendre, les stands partenaires,
ouais,
nos juges arbitres.
Ah,
donc les juges arbitres sont 6 juges arbitres,
hein, pas arbitres,
mais juges arbitres.
Les cours d'entraînement.
Donc les cours d'entraînement sont sur l'app également. Tu as 8 cours d'entraînement où les gens peuvent réserver du matin au soir leur terrain.
Derrière les temps, toi. Je vais d'ailleurs aller venir m'initier moi aussi un petit peu au.
Toi tu baisses le bâton.
Ah, je dois me taire, on me dit tennis légende, puisque Max de tennis légende et Maya sont parmi nous.
Oh, il est parti.
Bonjour.
Donc là, les juges arbitres.
Ouais. Donc là tu rentres dans toute la partie vraiment tennis, technique, juge arbitre.
Ouais.
Donc ils sont 6. À maîtriser un petit peu tous les. Donc là, ça consiste en envoyer les matchs. Alors d'abord au début, contrôler.
Si ça gérait 2400 joueurs, c'est ça ?
1002.
Ah, j'ai un peu gonflé là.
Donc on.
Je me suis emballé.
Donc au début, on a géré que la personne soit bien licenciée, bien sûr.
Ouais.
Qu'elle ait bien un certificat médical et sa pièce d'identité. Que ce soit bien le bon joueur qui joue et qui ne se fasse pas remplacer par quelqu'un. Donc, tout ça, c'est checké. Ensuite, ils font toute la programmation des matchs. Sur à peu près, on va jouer entre 300 et 500 matchs par jour.
D'accord.
Ce qui est colossal, ce qui est autant qu'une quinzaine à Roland-Garros.
Par jour.
Par jour.
Ah ouais, pour se rendre compte, c'est.
On a plus de terrain, mais disons que.
Combien de terrains il y a ?
On joue sur à peu près 30 terrains sur le Cap, plus des terrains à Valras et des terrains à 7.
Donc combien de terrains en tout ?
On joue sur 48, entre 48 et 50 terrains.
Et c'est pour ça qu'il y a des navettes qui sont mises à dispo, c'est aussi pour emmener sur les différents clubs.
Tout à fait. Donc,
et
toutes les
ramener deux boîtes de nuit en cas d'excès ou de Madison qui a mal tourné comme hier soir.
Voilà. Donc voilà. Donc ici c'est envoie des matchs sur les terrains, avec une personne qui envoie, qui te donne les balles, etc., qui te dirige un petit peu. La récupération des résultats et des matchs. Des personnes sur les terrains qui vérifient qu'entre la fin de ton match et le match qu'on va lancer sur ce terrain, eh ben, tout de suite donner l'information, le 22 est libre, hop, comme ça tu envoies tout de suite un match, plutôt que la les deux aillent boire un coup, donnent le résultat un quart d'heure après, donc pour ne pas perdre de temps.
Comment l'appli est mise à jour sur un terrain est libre, le match est terminé?
Alors ça, c'est pas avec l'appli, c'est avec des tokis.
D'accord.
Donc tu as une personne qui est là-bas.
Qui réceptionne l'info.
Voilà. Lucie, qui réceptionne l'info, qui est en liaison avec des gens sur les terrains.
Ouais.
Qui lui dit, elle a tout le programme des terrains sous les yeux. Et elle communique, le cours 22 est libre. Et elle envoie le truc.
Une rapide pause pour vous rappeler de mettre un like à la vidéo si vous êtes sur YouTube. Ça nous aide comme jamais à faire connaître ce travail, à diffuser le contenu. 5 étoiles sur les plateformes audio, Apple Podcast ou Spotify. Et vous avez 2 bonus gratuits offerts dans la description de l'épisode. Un sur le mental, c'est 14 conseils d'un préparateur qui s'appelle Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché plus de 20 joueurs dans le top 100. Et l'autre, c'est 5 clés pour avoir un cordage plus adapté à votre style de jeu et une tension parfaite en fonction de vos forces faiblesses dans votre jeu, et préserver votre physique au passage. On a fait une vidéo qui a cartonné sur le cordage récemment et j'ai isolé 5 conseils qui va considérablement vous aider pour aller chercher 2 à 4 classements. Donc voilà, ça fait une différence majeure sur votre jeu, tant sur le mental que sur le cordage. C'est en lien dans la description et c'est parti. Maintenant que vous êtes inscrit, on y retourne.
Alors on continue le tour.
Voilà.
Où est-ce que tu nous emmènes?
Alors on passe par là.
Allez.
Donc là, on en parlait il y a 5 minutes, c'est l'app du tournoi.
Ouais.
En fait, c'est notre partenaire Movin depuis plusieurs années maintenant, avec des développeurs, etc., qui se mettent vraiment au service de l'événement, qui comprennent très bien, parce que tous ont été classés négatifs ou connaissent bien les preuves. Donc ils sont à notre service pour donner du confort et de l'information à tous ces gens.
Magnifique. Voilà. Ça a combien de temps ?
Ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble, mais il y avait un autre nom.
D'accord.
Mais maintenant, c'est
Movin. Ça fait 8 ans que vous avez une appli ?
Non. On avait des différents services et petit à petit, elle s'est modernisée et tout ça. Avec un système de NFT qui sont cachés un petit peu dans toute la ville.
Ouais.
L'idée, c'est qu'à chaque fois que tu fais du sport ou tu fais des matchs de tennis, tout ça, tu emmagasines des points.
Ouais.
Et ces points te donnent... tu peux gagner des lots ou des trucs comme ça. Et on cache aussi des NFT dans toute la ville. Chez les partenaires, etc., tu collectes tout ça et tu gagnes des petits bons.
Vous êtes plein de surprises.
Ici, notre stand de presse, donc les joueurs, quel que soit ton niveau, vont être au fur et à mesure qu'ils gagnent, ils sont en finale.
Allez, on fait juste un petit plan. Mets-toi là. Et tu m'expliques rapidement ce qu'on fait.
Voilà, ici. Donc là, tu es dans disons, l'interview d'après-match.
Ouais.
Donc, comme les champions. Tu sors de ton terrain, tu viens ici. Alors on va le faire sur les finalistes et vainqueurs,
ouais,
pour avoir l'interview du vainqueur. Quel que tu sois à 30, à 2-6, à 15-4, tu auras ton interview qui est relayée sur le...
On peut débriefer un match exhibition aussi très rapidement?
Ouais, ben, bien sûr.
Bon, alors je trouve que tu as encore une bonne main, que sur le déplacement latéral, forcément, bon, tu peux faire un peu de fractionné pour te remettre dedans. Mais la volée en contre-pied et l'exploitation de ma faiblesse en coup droit était optimale de ton côté. Que tu peux me faire un petit feedback dans le sens.
Bah moi j'ai été au maximum.
J'ai tout donné.
J'ai tout donné. J'ai caché un peu ma fatigue et tout. Mais je me suis bien amusé. C'était le principal. Je manque un petit peu de pratique, un peu d'entraînement, un peu d'automatisme. Perdu un peu de muscle.
On sent que tu as du métier parce que quand tu as fait intervenir le jeune pour souffler, c'était un beau move.
Ça s'est fait partie des. Mais en tout cas, c'était super sympa et. Voilà, ça m'a fait du bien.
Et vivement la prochaine.
Voilà.
Allez, on y retourne.
J'ai fait mon heure de tennis, disons, pour le semestre.
Très bien. Alors, où est-ce qu'on enchaîne?
Non, on continue.
Ouais.
Donc là, on arrive sur le stand NGTV. Donc les matchs des cours centraux sont filmés. Ouais. Tu peux, après ton match, récupérer la cassette de ton match. Génial. Et à partir des finales, c'est en live, en streaming, en live. Donc quand tu as à Trentin ou tu as du monde dans la tribune et tu joues un match qui va être au couteau,
tous les matchs peuvent être récupérés par NGTV.
Ouais, ouais.
Incroyable. Voilà. C'est bon ça.
Alors là, on continue.
Alors, attends juste une seconde.
On continue, là tu arrives sur le stand photo.
Ouais.
Alors au-delà d'un stand photo, c'est un stand tous les matchs, quelle que soit l'heure, quel que soit le cours et l'endroit, tu vas avoir un photographe professionnel qui va venir te prendre en photo. Et tu pourras retrouver ici tes photos, donc c'est pendant tes matchs. Et en même temps, tu peux personnaliser ton affiche du tournoi.
Ouais.
Ici, sur le mur là-bas.
Ah, très bien.
Voilà, tu personnalises ton affiche avec ton. Donc ta tête va apparaître à la place de l'affiche que tu as dans les mains sur le programme.
On va le faire ensemble.
Et on va le faire ensemble.
On voit ça plus tard.
Voilà.
Et ensuite,
tu as aussi ton NFT avec ton affiche qui devient quelque chose d'unique, qui peut tourner la propriété. Peut-être un jour.
Qui prend de la valeur.
Notre photo, notre affiche. On la vendra des millions de dollars.
J'espère, il n'y a pas de raison.
Mais bon, si ça n'arrive pas, c'est pas grave.
Ah si.
Donc là, tu arrives sur la partie un petit peu de sportive, disons, de nos partenaires. Donc la partie essai de raquettes, essai de produits avec Ed.
Ah, donc là, on peut venir emprunter n'importe quelle raquette Ed.
Voilà, et tu essayes, comme ce matin d'ailleurs. Tu vois, j'ai découvert l'Xtreme, toi aussi d'ailleurs.
Non, ouais.
Je ne sais pas.
Et j'avais jamais joué avec, t'en as pensé
quoi? Moi non plus. Bah, très bien, très bonne raquette.
Tu m'as battu avec, donc logiquement, ça va aller.
Donc on n'a pas eu le temps de la peaufiner exactement à son, tu vois, son équilibre, à son manche et tout ça. Mais en fait, déjà, tout de suite, c'était une raquette qui est. Voilà.
Bonjour.
Ensuite, on a un service comme dans les grands tournois professionnels où tu peux corder ta raquette dans la journée. Je crois qu'on en est, tu vas me dire, on en est à peu près à combien de pauses depuis le début? 200. Plus de 200? 200.
Et ça va les doigts?
Ça pique un peu.
Les doigts piquent. Très bien, bien, bon courage. Et juste une question, c'est quoi la tension la plus demandée, la plus fréquente?
24 kilos.
Et on sait pourquoi?
Je pense que ça doit être la tension standard, moyenne, en fait.
Bon, allez, on ne dérange pas plus et à plus tard.
Voilà.
Ou pas.
Donc, on continue comme chez les pros. En fait, tous les matchs sont avec des balles neuves.
Ouais.
Voilà, et voilà. Balles neuves.
Et toi, à l'époque, tu as commencé avec des raquettes en...
Non, moi, j'ai fini ma carrière avec... Alors, je suis passé sur le tamis intermédiaire, le moyen tamis.
D'accord.
Même grand tamis... Moyen tamis, mais j'ai fini quasiment avec le raquette en bois.
T'as fini avec la raquette en bois?
Ouais, pratiquement. Enfin,
t'as terminé l'ère de la raquette en bois, c'est ce que tu veux
dire. J'ai commencé le tennis avec ma raquette en bois.
Ouais.
Et puis je suis passé sur du tamis intermédiaire.
Et tu jouais avec quoi à l'époque?
Je jouais avec Max de Sanger, la Dunlop Max de Sanger de McEnroe.
D'accord.
Et puis avant, en bois, bah, j'ai joué avec la Dunlop Max Fly, j'ai joué avec la Maxima, j'ai joué avec une raquette sur mesure qui s'appelait Marville.
D'accord.
En fait, quand on était à l'INSEP, on avait tous un contrat avec Tulan, Lecomte, Potier.
Ouais.
Avec un tout petit magasin de sport qui était près de Roland-Garros, qui s'appelait Marville, Pozzo, une marque.
Ouais.
Où il y avait eu d'ailleurs avant Pascal Porte, et je pense que Yannick a joué aussi avec Marville. C'était un gars sympa qui était toujours là, et il a verrouillé un peu tout le monde avec des contrats. Et on a fait une raquette qui s'appelait l'Espoir 4. La raquette en bois. L'Espoir 4, c'est parce que tu avais Tulane, Lecomte, Potier et moi qui jouais.
Et quel cordage tu jouais?
C'était lui le cordage. C'était du boyau. Hein.
Et quelle tension?
Ah, je me souviens.
Et les fringues? Et je te lâche? Et
Les fringues. Je joue avec LS.
Ah ouais, la classe! Voilà. Est-ce que tu avais le short qui s'arrêtait là, littéralement?
J'ai eu des shorts vert pomme.
Oh.
J'ai joué avec des chemises rose. Alors que je suis plutôt quelqu'un d'un peu tradition, je suis pour le blanc, je suis pour la rigueur un peu dans le tennis, je suis pas pour trop démocratiser, je serais J'aimerais bien qu'on revienne un peu comme l'escrime ou le judo, machin, où on garde la tradition de la tenue.
D'accord.
Sans tomber dans le...
Dans le trop conventionnel.
Dans le trop conventionnel, mais une tenue qui est des pieds à la tête, c'est bien, mais quand quelqu'un met un truc rouge avec un truc vert, avec des chaussettes de...
Pas ton truc, pas ta cam.
C'est trop... Je trouve que ça fait partie de la tenue vestimentaire. Elle devrait être inculquée, elle l'était avant, quand on avait les profs de tennis qui étaient des maîtres professeurs, qui arrivaient avec une belle tenue. Ça, tu peux permettre de dire aux tes enfants, enfin aux enfants qu'ils entraînent, pour jouer, vous allez vous habiller en tenue de tennis.
Ouais.
Voilà, et pas en tenue de foot ou machin, ou en Marcel ou truc comme ça. Donc peut-être les marques jouent pas trop le jeu. On a eu beaucoup, on a vu hein, précédemment avec Serena Williams, avec
Rafa qui allait sans manche. L'année prochaine, pour la revanche, il n'aura pas le débardeur de Kyrgios. Hélas.
Je trouve que Federer défendait beaucoup plus
La classe,
incarnait
évidemment.
La classe et tout ça. Bon, après, les goûts, les couleurs, c'est tout ça. Mais je suis plus pour revenir à un truc un peu plus cadré.
Tradit.
Et il faut que les BE et les profs soient les premiers à montrer l'exemple.
Ouais.
La casquette à l'envers, le machin, le truc. On fait ce qu'on veut. Mais sur le terrain de tennis, dans un club de tennis, je crois qu'il faudrait revenir à un truc un petit peu plus cadré.
Okay.
Voilà, c'est une
envie.
C'est mon... Ouais.
Très bien.
Donc, Tennis Warehouse. Donc, en fait, Tennis Warehouse, c'est... Ils distribuent tous les produits de Edge sur cette épreuve.
Très bien.
Un partenaire depuis 4 ans maintenant, avec qui on s'entend très bien.
Et Edge, historique depuis le début, non?
Non, Edge, ça fait 15 ans, je crois.
D'accord. Alors, le stand gaufre, où il faut absolument faire un petit crochet parce qu'il y a une légende qui est derrière les fourneaux.
Alors, ici, en fait, tu as le... entre guillemets la caisse. Dans le tournoi, il n'y a pas d'argent liquide qui circule.
D'accord.
En fait, tous les gens qui veulent acheter ou consommer...
Est-ce qu'on peut voir un token?
Un token, bien sûr. Donc, tu achètes en fait des tokens qui te permettent avec ça. Donc, la valeur du token est de 2 euros. 2 euros. Et tous nos prix, tous nos tarifs...
Rabouler les tokens.
Donc, tous nos tarifs sont des multiples de 2 euros.
D'accord.
Voilà.
OK.
Donc ça permet qu'il n'y ait pas d'argent qui circule, qu'il n'y ait pas de... Voilà, que tout soit... Que les gens payent avec.
Je voulais juste faire un petit crochet par Eric, qui a sillonné le circuit, il me semble, en tant que cordeur, notamment avec Rafa, et j'en passe, les pires et les meilleurs, tous les meilleurs. Est-ce que tu peux nous faire une petite intro sur comment vous êtes connus? Et juste qu'on fasse une minute avec Eric quand même, parce que c'est un parcours hors norme. Je sais qu'il y a certainement des gaufres de légende, mais derrière ça, il y a un savoir-faire qui est quand même fou. Quoi.
Le savoir-faire, c'est bien doser le verre. C'est-à-dire que dans un Ricard, il y a un tiers de Ricard et deux tiers d'eau. Et on a commencé comme ça, en fait.
Et je crois même que tu es le spécialiste de... Qu'est-ce qu'on m'a dit hier? Qu'est-ce que tu faisais en rentrant de soirée? Je croyais... Pendant que je redemande à Aurélie, mais qui m'a confié un truc, une petite anecdote, je ne l'ai plus. Mais...
Ah, ça dépend, j'en fais tellement que...
Ah bah voilà, ça va bien.
Donc Eric, on se connaît avec Suzanne depuis longtemps, ce sont des amis de très longue date. Une petite anecdote entre nous, c'est que ma meilleure victoire, c'est Muster, et la première fois qu'il accordait, c'était Muster.
Un pro, et c'était à Monte Carlo à 42 kilos, sur un petit ami.
Mais toi, tu l'avais joué où?
Moi, je l'ai joué à Chartres, dans un tournoi qui était 75 000 $ juste avant Roland.
Et donc, Muster, 42 kilos.
Oui, sur un petit... Ouais, c'était les premières, c'était pas très lourd. Hein. C'était 320 grammes, quoi, tu vois. Mais c'est le fait de première fois que je corde à 42 kilos, à Monte-Carlo, devant les centrales. Ça faisait drôle, quand même. Hein. C'était sympa.
Donc, il faut aller au musée, en Normandie.
Ouais.
Parce que c'est un bar... resto avec un musée du tennis où tu retrouves toutes les raquettes de toutes les générations, raquettes en bois, les machines aussi, moyen tamis, grand tamis de tous les joueurs dédicacés pour la
j'en ai quelques-unes, ouais.
Tu lui as filé ta collection de t-shirts?
Là.
On refera un podcast ensemble vraiment dédié à ta carrière, parce que je suis ravi de t'avoir rencontré et à très vite.
Et d'ailleurs, je cordais ici pendant 10 ans et puis après j'ai laissé la place à Tennis Warehouse.
D'accord, très bien. Allez, à plus tard.
Ouais.
Un petit mot sur La Réunion.
Donc là, tu arrives sur l'île de La Réunion. C'est plus que l'île de La Réunion. C'est des amis de longue date. On s'est rencontré avec Philippe. Philippe donc, habite à La Réunion.
Ouais.
Et il y a près de 20 ans, il est venu me voir à Paris. Donc, dans notre première rencontre, 20 ans.
Ça va, Philippe? Ça va,
ouais. Tu veux boire un petit punch?
Non, c'est gentil, mais le cœur y est. J'adore, j'adore.
Ou alors après, quand tu as un petit moment, tu viens.
Avec plaisir. Merci beaucoup.
Donc il y a 20 ans, on s'est rencontrés. Il est venu à Paris. Moi, j'ai des bureaux à Boulogne, près de Roland. Il m'appelle, il dit, voilà, moi, je suis de La Réunion. Je voudrais bien qu'on fasse une calife là-bas et tout. Bon, il veut rien et tout. Je l'ai reçu dans mon entrepôt, tu vois, entre deux, assis sur deux cartons de balles. On a bu un coup, tout ça. Et puis l'aventure a commencé. Et puis ça fait 20 ans. On a fait quoi ? 20 ans de qualif avec à peu près entre 500 et 800 joueurs à La Réunion qui font les qualifications.
Ouais, partout sur l'île.
Partout sur l'île, un peu nord, sud, est, ouest. Il vient ici avec une quarantaine de Réunionnais. Donc cette année, il y en a un petit peu moins parce que c'est une petite période de transition. Mais ouais. On va repartir fort avec la fédération, avec aussi une volonté de travailler avec tous les dom-toms.
Ouais.
Dont Philippe va être en charge de faire le lien avec tous ces dom-toms. Et donc 20 ans d'amitié, de voilà, donc des et puis on va de temps en temps, pas tous les ans, mais on va lui faire un petit.
Amitié,
magnifique.
Sont les règles de la vie de tous les jours et on y tient.
Et tu me disais que, parce que forcément pour un Réunionnais, c'est un peu plus cher de venir ici avec le transport, qu'il y avait une aide à un moment donné.
Ouais, alors c'est un peu plus compliqué. Je suis pas très calé, tu te dirais peut-être mieux que moi, mais il y a une aide de territoriale complémentaire.
En fait, c'est la continuité territoriale. Et la continuité territoriale octroie à toute personne ayant le plafond requis administratif, enfin financier, une aide de 300 euros sur un billet d'avion. Mais
c'est tous les 3 ans.
Voilà, maintenant c'est un petit peu plus compliqué, c'est tous les 3 ans. C'est pour ça que là, on est en train de réfléchir justement sur pouvoir donner la chance aux Réunionnais dans un premier temps, mais aussi à tous les Domiens de pouvoir venir participer à cette grande fête, parce que c'est une fête française et les Outre-mer font partie de la France. Donc pour nous, on doit pouvoir trouver une solution qui va permettre de pallier à ça.
Et je voudrais rajouter...
On parle autour d'un petit punch.
Et en fait, Philippe a fait aussi quelque chose que j'ai trouvé ça bien. En fait, tous les gens n'ont pas les mêmes moyens. Et en fait, on faisait des aides pour venir ici un petit peu en fonction de tes moyens. Tu vois, le gars qui avait... On ne voulait pas empêcher un qualifié de La Réunion qui n'a pas un radis, qui n'est pas... Voilà, qui peut pas venir. Donc lui était financé à peut-être à 80%.
Ah ouais.
Et celui qui était, je ne sais pas, pharmacien...
Et financé par qui?
Par la globalité du...
Du budget du tournoi.
Du budget, tu vois.
Incroyable.
On aidait en fonction un petit peu des âges, des moyens de chacun. Le pharmacien payait peut-être un peu plus que le... Voilà. Et tout ça, bon, ça a créé aussi une... Voilà, et quand on va sur l'île là-bas et tout, on est super accueillis dans les clubs, on est voilà.
C'est une famille, la NTC.
Et on continue pendant longtemps. Et maintenant, ils nous font déguster un petit peu les petits punchs et les plats réunionnais.
J'espère que la prochaine, on va vous faire goûter la cuisine.
Oh, on se retrouve tout à l'heure en tout cas, voilà. À l'apéro. Merci beaucoup. Ok, où est-ce qu'on enchaîne, Christophe?
Donc ici, un stand Audalys, c'est notre partenaire hébergement,
ouais.
Où on a à peu près 500-600 appartements,
okay.
Chez Audalys, sur 2-3 résidences.
Combien ça coûte une semaine ici sur l'hébergement?
Si tu prends 2 pièces, 4 personnes pendant une semaine, tu vois, c'est à peu près 400 euros.
Ouais.
Voilà, pour...
Pour 4 personnes?
Ouais.
Ouais, c'est voilà, hyper correct.
Donc c'est vraiment correct. On est hors saison. Enfin, on est en vacances scolaires, mais on est hors saison. On a la ville pour nous et toutes ces résidences sont bloquées que pour les gens du tournoi.
Magnifique.
Donc il y a une ambiance aussi dans chacune des résidences où il y a un resto en bas et tout, il y a la musique, ça danse.
Et la plage ici est à 500 mètres, il me semble. Hein.
Oui, on est là à 300 mètres. En fait, on est entouré de plages.
Alors, pas évident tous les jours. Alors,
donc là, on a le stand de Smartly. Voilà, qui est notre
le stand quoi
Smartly.
Ouais.
Qui est notre partenaire.
Ok.
En fait, événementiel. Donc, qui est une activité de marquage pour le textile.
Ouais.
C'est celui qui nous fournit les gourdes. Qu'on donne à chacun tout ça pour essayer de contribuer à l'écologie, enfin, etc. Pour pas prendre beaucoup moins de bouteilles en plastique sur les terrains. Donc la gourde sert toute la semaine.
Tu fais bien d'en parler. Est-ce qu'il y a d'autres points où avec les années vous êtes amélioré pour avoir un impact un peu moins important sur la semaine?
Oui, alors on a fait un très gros travail, je vais être très honnête, il y a 2 ans, avec un de nos participants, un de nos fidèles participants qui est complètement dans ce truc. Et on a fait beaucoup de réunions pendant tous les lundis, en fait, parce que c'est un voisin à Saint-Germain-en-Laye, avec un grand mur, avec des post-it, où on a vraiment brainstormé beaucoup là-dessus. avec une volonté de le faire. Et puis le Covid est arrivé.
Ouais.
Il a fallu reprendre après le tournoi. Et j'avoue hein, qu'on a un petit peu mis de côté cette partie pour se concentrer sur relancer le tournoi, repartir.
Ouais.
Mais c'est quelque chose avec la fédération qui va être primordial. Et puis avec, en continuant avec Yann de faire cette partie écologique. Donc on fait des petites choses. Hein. Moi je demande à mes partenaires de faire attention sur la ici dans le tri des déchets, dans tout ça. Bon, c'est pas parfait, mais on y met déjà un petit. Je joue avec mes partenaires pour sur les boîtes de balles par exemple.
Ouais.
Avant il y avait un bouchon, deux bouchons, un truc à ouvrir et tout, de faire qu'un. Pour pouvoir faire le tri sur les consommations de plastique, bah justement avec cette gourde, c'est un petit peu moins. Après, j'ai.
Voilà.
C'est
très bien.
Mais c'est. On a aussi une course.
Ouais.
Qui a lieu samedi.
Ouais.
On contribue avec la Ligue contre le cancer. En fait, c'est la course des tennisman.
D'accord.
Un petit peu, qui est ouverte à tous. Parce que les autres années, on finissait le tournoi en novembre. Donc on a un peu changé d'une semaine, donc maintenant on est en octobre,
ouais.
Ça veut dire qu'on peut être dans octobre rose, on est quasiment le dernier jour de octobre, et on fait une course des tennisman, voilà, où les gens pour 5 euros ont le t-shirt et peuvent participer à la course qui est dans la ville.
Et à préciser, en revanche, toutes les activités extra, les pessants au paddle, le poker, les initiations, tout est gratuit.
Alors,
quasi.
Tout est inclus dans ton pass, hein, dans
d'accord.
ton inscription.
Ah, okay.
Le gâteau, la grande roue, le petit train, les soirées, le paddle.
Et tout le monde a le même pass ou c'est, du coup, c'est des options variables?
Tout le monde a le même pass.
Okay.
Tu as ton t-shirt à l'arrivée, tu peux participer à toutes les soirées, etc. Voilà.
D'accord.
Donc c'est un pass unique. Alors c'est un coût de 65 euros.
Ouais.
Alors les gens me disent c'est cher et tout. Si tu veux le gars qui vient juste pour jouer son match de tennis et qui participe à rien, il me dit ouais, non, mais moi je viens juste pour jouer. Je dis. Vous n'êtes pas mon client quelque part.
Ouais.
Il y a des milliers de tournois toute l'année où vous jouez votre tournoi, vous partez, voilà, vous payez 10 balles ou 15 balles ou 20, ou, voilà, et vous partez. Nous, ce joueur-là, c'est pas un joueur de la nationalité. Ici, c'est partagé pendant une semaine,
ouais.
C'est participer à toutes les animations. C'est un peu, on va en parler tout à l'heure, c'est un peu l'idée Club Med.
Ouais.
On va en parler quand tu vas me demander comment ça a germé tout ça.
Ouais.
Voilà. Donc,
on est sur quoi? On est sur de la famille qui veut participer et découvrir plein de sports ou sur des passionnés de sport en règle générale, des gens qui viennent faire la fête. Tu veux dire que c'est quoi la répartition de la population de la NTC?
Alors, je, moi, avec ma boîte, en fait, tout seul, je fais pas l'étude de tout. De tout ça, je ne suis pas armé pour faire ça, c'est des coûts importants pour analyser tout ça. Mais bon, je te dis, il y a 1200 joueurs, 3000 accompagnateurs. T'en as qui viennent ici avec. T'as un enfant qualifié de 12 ans, il vient avec le père, la mère, la petite sœur, le machin, le grand-père, la grand-mère. Le grand-père, la grand-mère, bah, ça reste, ça visite, ça va à la plage, ça reste dans le cap, ça vient une fois pour voir jouer le petit-fils,
ouais.
Mais ça ne participe pas à tout.
Okay.
La mère, elle vient, elle fait la gym, elle fait le beach tennis, elle fait la gym le matin, elle fait les conférences. T'en as qui sont là pour participer à tout,
ouais.
Et puis t'en as, bah, ils profitent de l'événement sans prendre de passe, mais c'est gratuit pour rentrer, pour aller voir les matchs, tout ça. Donc c'est open, chacun fait ce qu'il veut.
Ce qu'on peut toucher là, juste.
Alors en fait, ici, ce sont deux cours en terre battue à l'année.
Ouais.
Deux cours en terre battue avec un village comme ça, assez joli. Je pense que tous les gens qui sortent avec leurs chaussures, etc., en 5 minutes, ton village, il est quand même assez abîmé. Donc
ouais.
On a un partenaire pour couvrir ces deux terrains. Donc en fait, en une journée et demie, on a fait ces deux terrains.
On peut le nommer, le partenaire?
Oui, c'est Play Sport.
Ouais.
Qui est ici, on va passer. Donc Play Sport, ils nous amènent ces deux terrains.
Ils sont là-bas aussi, c'est le même.
Ouais.
Bon, on va aller voir là-bas aussi.
Avec deux objectifs. La première, c'est ici jouer et faire découvrir aux adultes le beach, le pickleball, etc.
Ouais.
Et en même temps, le jeu normal. Et voir lancer des matchs aussi s'il y a besoin. Et tester les produits de nos partenaires.
D'accord.
Leur raquette, etc. Et la deuxième partie, elle est pédagogique.
Ouais.
Avec Olivier Le Thor. où on a quatre terrains avec des modules différents. Avec ça, c'est un terrain de pickleball.
Ouais.
Voilà. Et un terrain, voilà, et à chaque fois avec le jeu des couleurs. Donc ça, c'est aussi notre partenaire qui nous l'amène.
Donc là, il y a deux choses. Il y a PlaySport qui installe la structure en un jour, il me semble, hyper pratique. Ouais. Et Olivier Letor, tennis couleur, qui a une pédagogie à part entière grâce aux couleurs, comme son nom l'indique.
La partie tennis couleur avec Olivier Letor à certaines heures, et la partie aide ou mini tennis le matin avec les enfants,
ouais,
et l'après-midi, et adultes aussi, pour test de matériel, etc., l'après-midi à certaines heures. Les tests, voilà. Donc 2 heures par jour avec Ed et le mini-tennis, et avec Olivier Letor, 2 heures par jour aussi. Donc ici, un petit peu de terrain open, où ouais, à chaque fois qu'on a un événement ou quelque chose, bah, tu dois t'en souvenir, parce que je crois que tu as pris une tôle ce matin.
Ah, je crois,
non,
ce
c'était,
matin,
c'était sur ce terrain-là.
Une énorme tôle. Ce matin, j'ai ce qui s'appelle mordu la poussière.
Donc là, c'est deux terrains en fait multi-sport où ils sont transformés en fonction. Donc hier, on avait un tournoi de poker là-bas avec 150 participants.
Ouais.
Et avant-hier également, 2 qualifs et une finale hier soir. Sur l'autre partie, on a des moquettes qui se déroulent pour faire la gym le matin. 2 sessions de 45 minutes pour les femmes, avec une centaine de femmes qui font la gym.
Ouais. Et il n'y a pas d'hommes qui font la gym.
Il y en a un. Il s'est fait jeter, il était
en infériorité.
Il n'était pas assez souple sur le grand écart.
C'est toi, non?
Non.
T'as arrêté, il y a déjà 32 ans la gym le matin.
Voilà.
Voilà.
Et après, on laisse le terrain libre accès voilà, en attendant des animations qui vont arriver.
Ok. Mouillienne.
Donc maintenant, on va passer à la partie paddle.
Ah.
Donc, la partie paddle, donc ça a été depuis le début de la semaine. 3 tournois P100.
Ouais.
Donc P100, ça veut dire c'est un peu les personnes qui veulent le premier tournoi, premier niveau, où tu commences à découvrir, c'est ton premier tournoi en gros. Donc ouais, ici on a fait la découverte, on a fait découvrir le paddle à beaucoup beaucoup de monde. Vraiment, je vois des gens qui ont commencé ici il y a 2-3 ans,
ouais,
qui sont venus, tu vois, prête-moi une raquette, je vais essayer. Maintenant ils jouent malheureusement plus au tennis, ils jouent qu'au paddle, ils font que des tournois, c'est des mordus.
Incroyable.
Donc c'est ces P100 qui servent un petit peu de découverte. On a fait 3 P100 avec nos juges arbitres et on a pratiquement les tournois les plus fournis de ce qui existe. Hein. Je crois qu'on a été jusqu'à 120 équipes sur les P100.
Mardi. Mardi, 240 joueurs joués.
Oui, voilà, effectivement. Donc,
des P100 avec 240 joueurs, tu ne vas pas en trouver tous les jours.
Oh, je pense pas que ça se soit fait déjà, oui, sur une voilà, journée, oui.
Donc
chez
on
nous,
est aussi là-dessus, vraiment à la pointe, enfin au taquet. Et c'est vraiment que le début, parce qu'on a déjà beaucoup de projets, beaucoup de trucs,
pour
tout en
prochaine,
gardant la partie loisirs et la partie haut niveau. Où aujourd'hui, on a un P1000, donc des joueurs qui sont qualifiés dans 8 clubs de France et qui sont rentrés dans le tableau directement avec leur classement. Où ils ont un bon classement national.
Est-ce que tu peux raconter, c'est toi qui as le micro, donc on entend
tout à fait.
Est-ce que tu peux dire, c'est vrai que les mecs au départ, ils hésitent un peu, et quand ils apprennent que c'est compris dans le pass,
ouais,
tout le monde participe. Au
effectivement, quand on reçoit les gens le dimanche, enfin, ou même le samedi, quand ils commencent à arriver, ils nous disent, alors comment ça se passe pour les tournois? Et on leur dit, ben voilà, on a un P100 dimanche, un autre lundi, un autre mardi, mais c'est le même tournoi. Non, c'est 3 tournois différents, donc on enchaîne. Et il dit, comment on fait pour s'inscrire, comment c'est? Et je leur dis, ben, vous pouvez vous inscrire à tous les tournois. On a des feuilles, tu vois, d'inscription. Et on leur dit, vous pouvez vous inscrire dimanche, lundi, mardi. Et bon, et c'est combien de tournois? Non, mais c'est compris dans votre passe. Ah bon? Ben oui, lundi, dimanche, il y en a pas plus loin. Non, après, jeudi, on commence avec les gros tournois officiels. Mais les gens, ils sont super contents. Et pour te dire aussi, c'est quand ils sont sortis de leur, parce qu'ils viennent avant tout quand même pour leur tournoi tennis, hein, d'accord? Mais quand ils sont sortis de leur tournoi tennis, ce qui les fait peut-être hésiter, ben des fois ils n'hésitent plus, ils s'inscrivent pour le reste de la semaine si tu veux, tu vois. Voilà, il va se taire. Ils viennent, on a encore beaucoup de monde qui se lâche parce qu'ils ne sont plus dans leur tournoi et qu'ils n'ont pas à calculer, oui, si là je joue après à 7 ou pas à 7.
Et t'as dit tournoi officiel après qui arrive plus tard, mais les P100
font plus. Oui, je ne disais pas officiel, je veux dire les tournois de plus haut niveau. Voilà. Là aujourd'hui, en P1000, on a des joueurs qui vont être encassés dans les 10-20 meilleurs joueurs français, tu vois. Donc, voilà.
Top, merci.
Donc ici, tu as un stand Total Paddle qui marche avec Tennis Warehouse, qui est la partie paddle de Tennis Warehouse, où tu as près de raquettes, vente de raquettes, découverte de tous les produits et du paddle.
Ok, où sommes-nous
Donc là, tu arrives à l'entrée du club et tous les gens traversent la boutique du tournoi. Donc il y a eu pendant toute cette semaine des offres avec Tennis Warehouse, notre partenaire.
D'accord. Des offres combien de temps vous êtes ensemble?
Ça fait quatrième année, cinquième année. Cinquième année.
Magnifique.
Et donc des produits que nous présente Tennis Warehouse, c'est des produits de la griffe Roland-Garros, qui est partenaire. Et voilà.
Ok, super. On y va?
Donc là, on part sur la partie sportive, où on a tous les terrains de tennis et de paddle, puisqu'on a sur ce côté à peu près 30 terrains et 4 terrains de paddle extérieurs.
Magnifique.
Donc là, les tournois continuent. Là, c'est plutôt la partie des matchs de classement du paddle celui-là, en ce moment. Ouais. Et puis des gens qui testent les produits. Et puis ce soir, là, donc y a, tous les matchs sont terminés en simple.
Ouais.
Et on a le double mixte. On a un double mixte avec à peu près 320 équipes.
Auquel je viens de jouer avec ma partenaire Viri.
Voilà. Et c'est une super animation. Regardez les allées du club. Il est 7h du soir. Voilà, nuit tombante. Il y a des gens partout, sur tous les cours.
Ça vit, Ça joue jusqu'à quelle heure en moyenne le soir?
Ça joue jusqu'à la fin des parties, la fin du programme.
C'est
ça peut être. Ça a été jusqu'à 2 plombes du matin.
Ah ouais?
Ouais, ça a été. Donc là, on n'a pas de problème de pluie, on n'a pas de problème de. On est dans les temps pour tout. Donc ça permet de faire ces doubles sympas en plus.
Il y a les terres battues là-bas aussi. Après, ça joue sur deux surfaces, c'est ça? C'est un peu la loterie entre dur et terre.
Exactement. En fait, ce que je dis toujours, c'est pour gagner une épreuve comme celle-là, il faut. Pas facile parce que tu vas jouer sur des surfaces différentes, à des horaires différents.
Ouais.
Tu peux avoir des cours, tu peux avoir de la météo, tu peux avoir du vent, tu peux avoir du soleil, il peut faire chaud, il peut faire très froid. Donc cette année, on a des conditions quand même assez favorables, mais on a des années difficiles. Et c'est vraiment, je trouve, un plus tentant avec l'ambiance. Les jeunes s'embarquent dans les soirées, se couchent un peu tard et tout.
Ouais.
Donc tout ça fait que pour gagner, il faut vraiment avoir du mental, du physique, des ressources. Et beaucoup ont envie aussi de faire la fête. Donc,
il y a combien de places sur les centraux?
Je crois qu'il y a 400 ou 500 places par tribune. Donc à chaque fois, tu as des matchs avec 500, 600 ou 800 personnes quand on fait les deux tribunes pour regarder deux joueurs qui jouent bien, mais qui sont à 30, 15-4, 2-6 au maximum.
C'est incroyable quand tu es amateur d'avoir autant de public autour de toi.
Et ici, on considère, il n'y a pas de différence entre un 2-6 et un 40 ou 35. Il n'y a pas de les meilleurs jouent sur le central, les autres machins. Non, c'est vraiment aléatoire et tout le monde est pareil.
Et pourquoi c'est arrêté à 2-6?
Parce que déjà, les qualifications, c'est difficile de trouver des qualifs à 2-6, 3-6, 4-6, de beaucoup de joueurs, surtout à Paris ou dans des grandes villes. On peut trouver des tableaux fournis, mais en province, à 2-6, il y a des comités où tu as 2-2-6 dans tout le comité. Donc.
Ouais.
Et puis aussi, on n'a pas assez de terrain pour prendre des négatifs et des moins 15.
D'accord.
Sauf si ça évolue vers une semaine plus longue, tu vois, sur 2 semaines par exemple.
Je crois qu'historiquement, ici, tu as fait venir quasiment tout le monde dans le tennis français. Non, tu faisais des exhibs avec du beau monde. Il y a Yannick Noah qui a fait venir pour des concerts. Tu peux nous raconter un peu ces passages de personnes un peu
connues. Alors déjà, moi je l'ai su après, mais on a beaucoup de joueurs qui ont été nos meilleurs français, qui ont joué ici le tournoi gamin, qui sont venus avec leurs parents, comme tout le monde ici, et qui sont devenus pro tennis.
Je pense à qui?
Je pense à Gilles Simon, qui est en caravane avec ses parents.
Ah quand même, Gilles.
Gilles, on est dans le même club à Paris, et on a reparlé de ça, et il m'a dit, mais moi je venais pendant des années en caravane, et je suis tellement content quand il est revenu il y a quelques années, où il était numéro 10 mondial, je crois.
Il était 6 à son meilleur en tout cas.
Ouais, il est arrivé, je crois, ici pratiquement à son meilleur classement, où il venait de perdre à Bercy, je me souviens, la veille au soir, il est arrivé le lendemain matin ici.
Ouais.
Super content d'être là avec des souvenirs de ça. On a Richard Gasquet qui est venu, qui a joué ici à 30, à 15-2, à 2-6.
Énorme. Avec Richard Avec Richard, avec Francis, pardon.
Qui le suit. Avec Francis, avec Francis. Et puis on a eu, après, en tant que joueur qui était sous contrat chez les différentes marques qu'on a eues pendant des années, on a eu quasiment, chez les filles, on a eu Amélie Mauresmo, Alizé Cornet, Virginie Razzano. C'était l'équipe de Fed Cup qui était là cette semaine, les trois étaient là.
Ouais.
On a eu, qui était venu avec notre partenaire, enfin avec Ed. Chez les garçons, on a eu Mansour Barami, on a eu Julien Beneteau, Gilles Simon.
En exhibe, tu parles.
Ouais, en exhibe, ou en visite, ou en signature, ou en formation. On a eu Di Pasquale, on a eu Chesnokov, on a eu...
André.
Je ne sais plus tous les noms, mais on a eu vraiment beaucoup de monde. Et puis en animation, on a eu deux fois le concert de Yannick.
Et c'était où?
C'était sur une boîte de nuit qui s'appelle le Bora Bora, là, sur l'île des loisirs. Donc j'aurai des petites anecdotes aussi sur ce concert.
N'hésite pas.
Voilà. on fera après
je
ou
te sens
maintenant.
Lancé.
Mais
on peut y aller.
Ben, moi j'avais le premier concert qu'on a fait. Donc c'est quand il s'est mis à la musique. Donc c'était
Saga Africa.
Ouais, c'était
91.
Pas, ouais. Donc c'était ses premiers concerts, voilà, un petit peu sérieux, organisé et tout. Mais c'était quand même un petit peu le bordel. Hein.
On va pas se cacher.
Je vais te donner un petit exemple. Je lui avais dit, écoute Yannick, ici c'est une ambiance familiale, il y a des enfants, il y a tout. Donc on va peut-être pas commencer à minuit, machin, on va essayer de commencer à 11h.
Ouais.
Voilà, on fait ça dans une boîte de nuit, c'est sympa, tu vois, c'est un public convivial, tout, ouais, super, on vient, machin. Et puis avant, j'avais organisé un dîner des présidents. Tu vois, on était à peu près 140 sponsors, présidents et tout ça.
Ah ouais, quand même, du beau monde.
Et donc on fait le dîner et tous les musiciens étaient arrivés. Vers 18h, je les avais installés dans leurs apparts, joué au tennis, remis des tenues, machin, et pas de Yannick. Et puis je leur dis, bah, il arrive quand Yannick? Il me dit, t'inquiète pas. Donc on va à la boîte de nuit, on fait la balance, on règle les sons, on règle tout. Toujours pas de Yannick. Bon. Il dit, bon, il va arriver et tout. Puis j'avais, je te parle de ça, le premier concert, j'avais 27 ans, 28 ans, tu vois. Donc j'étais un jeune organisateur.
Le tournoi avait quel âge?
Il avait, je sais pas, 5-6 ans, tu vois.
Donc t'as créé à 22?
J'ai créé le tournoi en 88, donc je suis né en 62, donc j'avais 24-25 ans, tu vois, quand j'ai démarré ma première année. Je jouais en même temps, j'étais en même temps 20e, je crois, au 20e français.
Ouais.
Donc, donc pas de Yannick, machin, on attend, et moi j'ai un tempérament peut-être comme ça, relax et tout, mais je suis assez stressé à l'intérieur, j'aime bien que tout se passe bien. Et donc je fais les 100 pas, tu vois, dans le resto, dans machin, je pars, je reviens, là.
Oui,
et puis je suis dans le hall de l'hôtel.
J'attends Yannick.
Je suis dans le hall de l'hôtel comme ça, et je regarde la télé, comme ça, tu vois, et je vois PSG Strasbourg, finale de la Coupe, Yannick assis dans les tribunes au Parc des Princes.
Non!
Et sur le coup, tu vois, je me fais gaffe, je dis tiens, c'est Yann. Et à un moment, tu vois, je fais putain, mais c'est en direct. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc je reviens. Comme un ouf, voir les musicaux. Je dis, allez, mais je viens de voir Yann au Parc des Princes, c'est quoi ce. Tu vois, je vous dis, mais vous foutez de ma gueule. Enfin, tu vois, je. Et là, mec se marre. Alors, je dis, gars, ça me fait pas marrer du tout, votre truc.
Ouais.
Moi, bon, il y avait, je sais pas, 1200 personnes qui attendaient.
Ah, quand même.
J'étais déjà presque assis.
Il était quoi, à 10h30?
Il était, ouais, 10h30, 11h, tu vois. Il me dit, ouais, mais t'inquiète. Et en fait, il est parti du Parc des Princes, vers la fin du match, tu vois, vers 10h30, un truc comme ça.
Ouais.
Il a été au...
Au Bourget.
Ouais, enfin d'abord Pont de Sèvres, enfin Porte de Sèvres, où tu as l'héliport, qui l'a amené au Bourget, en hélico. Et là, il prend un avion privé pour arriver à Béziers. Et il arrive ici à minuit, mais tu vois, il est poussière. Il m'appelle, il me dit, c'est Yann et tout, qu'est-ce que je fais? Je suis à Béziers, je suis tout seul, il n'y a rien. Et je lui dis, écoute Yann, tu prends n'importe quel truc qui a quatre roues, tu demandes île des loisirs, Bora Bora, et tu vois, et j'étais comme ça. Hein, j'avais même pour la première fois pris des petits cachets pour me détendre, pour me calmer, tellement j'étais stressé du truc, quoi. Et puis il est arrivé à minuit et demi, ouais, salut, tu vas bien, machin. Il s'est foutu en machin, en condition, avec ses potes et tout, allez, on y va les gars. Et il m'a fait 2 heures de concert super.
Ouais.
Et puis. Donc, moi, j'ai même pas vu parce que il commence le concert et là, tu vois, je prends une petite boisson, me détendre un
ça
petit peu,
couché.
Je m'assois. Et là, t'as un videur, enfin un mec de là, il me dit, vous êtes l'organisateur? Je fais oui. Il me dit, ah, vous avez, il y a deux enfants sur le port qui ont eu un problème, il faut que vous alliez d'urgence, machin. Je repars là-bas, je les emmène à l'hosto ou un truc comme ça.
Oh,
je reviens, fin du concert, bravo, bravo et tout. Et Yann, il me fait, écoute, je suis embêté parce que j'ai un rendez-vous ultra important demain matin, il faut que tu me ramènes à Béziers à l'aéroport, ça ferme à 2h30, 3h. Donc là, hop, on repart... dans le froid, sous la nuit, enfin, j'ai l'impression de passer un transfuge, tu vois, à l'est. Donc ça, c'était son premier concert, je reviens, et puis t'as tous les musicos qui étaient en train de picoler avec toutes les équipes, avec machin, le bordel partout, et je me suis tapé le... Bien sûr, personne après pour...
le ménage.
Pour faire le ménage, démonter, remettre dans les caisses. Donc j'avoue que c'était... Une première édition, un premier concert, une expérience.
Et deuxième, un peu plus structuré ou pas?
Deuxième, alors, un peu plus structuré, mais avec une histoire sympa. C'est que j'avais invité ici comme joueur qui participait au tournoi, qui Charlie Licouture.
Ok.
Donc Charlie, ça te parle peut-être pas.
Comme un avion sans aile? Pas totalement.
Comme un avion sans aile?
Tu veux nous la fredonner juste pour qu'on la remette?
Comme un avion sans aile.
Ok, non, encore moins.
Je suis pas. Donc Charles Ellis, c'est un des plus grands. C'est celui qui a vendu le cette chanson. Elle fait partie des tops des ventes en France de la musique. C'est vraiment un chanteur,
ouais,
qui est aussi un artiste peintre et qui est aussi un sculpteur. Qui est parti aux États-Unis à New York, qui a des toiles au MoMA.
Ah, quand même.
Qui est un...
Charlie, on t'embrasse.
Voilà. Et Charles Ellis donc est venu ici et comme musicien, comparé à Yannick, sans être méchant, mais Yannick c'est un 15-4.
Ah ouais.
Et Charles Ellis c'est une première série.
Charles
musicalement, Charles Ellis Couture.
Ouais.
D'accord.
Première série, ah ouais, beau.
Ah non, mais c'est un.
Ouais.
C'est des même encore maintenant. Yannick il va dire, attends, là on joue pas dans la même cour musicalement. Tu
ouais.
vois, c'est des mecs. Et Charles Ellis donc vient. Et je lui dis, j'ai le concert d'Yann et tout, est-ce que tu peux nous faire un petit truc et tout? Il dit, ouais, super et tout. Et puis ils se parlent, ils font d'abord la balance ensemble.
Ouais.
Où Charles Ellis, quand même, il met au pas tous les musiciens d'Yannick. Quoi,
okay. Tu vois,
comme si par exemple.
Je m'entraînais avec Murray, quoi.
T'as deux 15-4 qui s'entraînent et machin.
Ouais.
Et puis ils jouent, tu vois, comme ça. Et puis t'as un mec à moins 15 ou première série qui arrive. Il dit, attendez les gars. Okay, vous allez commencer à bouger les jambes, vous allez commencer à faire ci,
ouais.
Tu vas commencer à jouer, tu vas enlever ton blouson parce qu'à chaque fois tu grattes avec ton manche, tu vas t'y mettre quoi, tu vois, puis on fait la répète et les mecs ils disent, attends les gars, vous foutez de moi ou... Enfin tu vois, c'était... Et je suis à Yannick, putain. Bon, ils s'organisent et donc Charlie doit venir à la troisième chanson après qu'Yannick ait commencé à chanter une chanson et revenir à la 15e ou 16e. Bon, tout se déroule bien, le concert sympa. Et troisième chanson, Charlie arrive, comme un avion sans aile, qui est un tube, hein, qui est un méga tube, hein, vous verrez un peu. Il part, super. Et à la 15e, bon, je regarde Yann sur scène, il me fait, tu vois, en chantant, il me fait, il est où
ouais.
Pas de Charlie. Bon, fini le concert, le machin, je me suis dit, il a dû se barrer. Et puis on rentre. Donc Charlie avait paumé aussi en simple ce jour-là.
Il y a combien?
Il jouait 30.
Okay.
Tu vois, il jouait dans le tableau des 30. Il avait paumé. Voilà, donc fin du truc, tout le monde part dans les loges. Moi, je me dis, tiens, je vais aller féliciter Yann, machin, et tout le monde et tout. J'arrive là-bas, et on arrive. Yann, il me fait, putain, mais qu'est-ce qu'il fout, Charlie? Il était où?
Ouais.
Et là, on entend, enfermé dans les toilettes. Verrou pété, enfermé dans les toilettes.
Ah ouais, chaud.
Donc là, on casse la porte. Et là, il sort comme ça. Donc, quand tu connais Charlie Couture, sa voix, sa tronche, son truc, c'est un personnage. Et il sort, il fait, oh, les mecs, comme ça, c'est pas sérieux. Il dit, je vais appeler ma femme, elle va demander ce que j'ai fait au tennis. Je vais lui dire que j'ai pris 2-2. Elle va me dire, t'as le concert, comment s'est passé le concert? Je vais lui dire que j'étais enfermé dans les chiottes. Elle me dit, je vais avoir du mal à revenir au cap, les gars. C'est comme ça. Et puis après, on a bu un coup.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as créé le tournoi?
Alors,
quelle était l'idée de base?
Alors, donc en fait, j'ai joué moi sur le circuit. J'étais pas comment on appelle ça, un second couteau. J'étais très fort pour un joueur lambda.
Ouais.
Et pour les meilleurs du monde, j'étais un joueur de qualif, tu vois, de premier tour. Bon, mais j'ai fait le même métier que tous ces gens-là, mais avec la particularité, c'est de profiter partout où je suis allé dans le monde. C'est-à-dire que je vivais, moi, le tennis. Disons sérieusement, hein, j'ai essayé vraiment d'être numéro un mondial, mais...
T'étais le Steph Robert de l'époque, Guy Duroutard.
Non.
Ah.
C'était plus fêtard.
Ah bon?
Du fêtard.
Ah ouais? Incroyable.
Donc moi, chaque...
Ça le mérite d'être honnête.
Je peux te donner le nom de toutes les boîtes de nuit du monde entier, dans toutes les villes.
Ah oui, d'accord.
Le nom de... Et puis, je dormais souvent, comme j'étais joueur de calibre, tout ça, chez l'habitant. Donc, ouais. Je partageais localement partout... Et je faisais mon programme de tournoi dans le monde, là où il y avait des clubs méditerranéens.
Quelle machine.
Et à l'époque, ce qui est toujours maintenant, mais moins peut-être, c'est moins perçu par les gens, mais le club méditerranéen à l'époque, c'était vraiment le partage, la convivialité, ouais. Les tables ensemble, tu vois, enfin le tutoiement de tout le monde tout de suite, quelle que soit ton
les
échelle
cases,
sociale.
À l'époque.
Ouais, j'allais pas dans les clubs med cases.
Ah
j'allais
bon
dans les beaux clubs med quand même.
En plus.
Ouais, parce que souvent c'était des villes un peu. Un peu bling bling pour les tournois de tennis, tu vois. Donc
ouais,
c'était,
ouais.
Et j'appelais donc le chef de village, je lui expliquais, voilà, je suis 15e français, je viens de disputer des tournois, est-ce que je peux venir loger chez vous une semaine?
Brillant, ça.
J'essaierai de faire une ou deux exhibits si vous voulez quand j'ai perdu, partager,
ouais.
Faire un truc avec les gens et tout.
Ouais.
Et à chaque fois, non seulement le mec m'accueillait à bras ouverts, mais il accueillit aussi mes potes. J'organisais un peu pour les
malin
autres. Et donc j'ai fait comme ça. Le Brésil, Itaparica, Agadir, Marrakech, Marbella.
Entre quel âge et quel âge?
Ben 20 et 25 ans, tu vois, 20 et 24 ans. J'ai arrêté, moi, à 24 ans, mon dernier, ma dernière chance où j'ai essayé, c'était l'US Open, calife de l'US et Cincinnati.
Ouais. Ouais.
Et puis là, je me suis dit, bon, allez, on passe à autre chose, tu vois.
T'as été tableau de grand chelem ou pas?
J'ai été en simple jamais, j'ai perdu à chaque fois. Dernier tour de qualif, très
ouais.
Souvent, Bercy aussi. J'avais un petit problème mental, dernier tour. C'est-à-dire
okay.
Que souvent je battais les joueurs les meilleurs dans les deux premiers tours, des très bons joueurs. J'avais un bon tableau au dernier tour et j'arrivais pas à jouer.
Et double, oui.
Double, ouais, j'ai fait plusieurs doubles, double mix, double machin. J'ai dû être dans les 100 en double, tu vois.
D'accord.
Mais disons que je vivais, moi, le tennis comme ça et je partageais avec les gens. Et quand j'ai fini ma carrière, je me suis dit. Je suis rentré dans la promo de marque de tennis.
Ouais.
Mon premier boulot était chez Montana. C'était une boîte qui distribuait Snowert.
D'accord.
Je ne sais pas si tu connais cette marque. C'était une marque qui était très connue à l'époque où tu avais Gary Lettis, Brian Gottfried, Ardo Butch, Svensson. On avait, voilà. Et Tretorn, qui étaient des balles, voilà, qui étaient des Suédoises.
Ouais.
Donc ça,
avec
c'était
ces petites billes à l'intérieur.
Non, c'était des clous, tu vois, la pub, c'était un clou pour montrer que la balle était, parce que c'était des balles sans pression.
Ah ouais.
Et donc ça, c'était mon premier boulot. Et très vite, je suis travaillé avec mon frangin, qui
d'accord.
Était le patron de Nassau. Qui
ouais.
Était des balles de tennis, des raquettes, des balles. Là, il y avait des billes dedans.
Ah, ça y est, rassuré.
Et on s'est dit avec mon frangin, voilà, que nous, on n'a pas des gros moyens, on n'est pas, toutes les marques de tennis sont en fait des marques de pneus.
Ouais.
Ou de literie, d'un lob. Pence c'est General Tire, enfin, tu vois. Et nous, on était une marque de balles, en fait, mais pas avec des gros moyens pour inonder un marché. Donc, on se débrouillait et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour la promo de nos produits? Mais on s'est dit, on va pas aller faire comme tout le monde des tournois, être partenaire de tournois pro, être la balle de grand chelem ou de machin. On n'a pas les moyens de tout ça en France. On va faire quelque chose pour nos clients.
Mmh.
Et on va leur inventer un tournoi où tout le monde a sa chance de gagner. Donc un tournoi par classement. Et voilà. Donc ça a été l'idée de départ, jouer, faire un tournoi. Tous mes copains qui arrêtaient à cette époque-là, ce sont tous, comme Gilles Moreton d'ailleurs, ou Dominique Bedel, ou Pascal Port, tout ça, se sont lancés dans le tennis professionnel en étant organisateur de tournoi pro. Et moi, j'ai tout de suite été sur le tournoi amateur.
Okay.
Parce que c'était facile. Et l'idée, c'était de créer un tournoi avec ce que j'ai vu du Club Med, l'état d'esprit,
ouais.
Et le professionnalisme d'un tournoi de tennis. Et je me suis dit, je vais faire pour des joueurs lambda, non classés, 15-4, 15-3, un tournoi organisé comme les pros. Service de voiture, service presse, accueil, de l'eau sur les cours, enfin,
tout ce que plein de détails cumulés.
Plein de petits détails cumulés où ça va être leur tournoi.
Ouais.
Voilà. Et on a commencé la première année, ça s'appelait le Trophée des meilleurs, donc le meilleur par classement.
Ouais.
Nassau, Tennis de France, qui était à l'époque l'unique journal de tennis en France, qui était dont Philippe Chatrier était le propriétaire, avec Sylvain Friedrich, qui est venu. Et donc ils nous ont aidés dès le départ. On a lancé ce truc dans 27 clubs. Et une phase finale ici avec 400 personnes.
Okay.
Voilà, où ben, il n'y avait pas tout ce village, tout ça, c'était sur le central. Je me souviens, le haut-parleur, c'était un cône de parking. C'était sympa. Mais bon, et puis les boîtes de nuit, la fête, enfin le même, mais à 400.
Mais comme...
Où je faisais tout.
Ouais.
C'est-à-dire que quand je dis je faisais tout, on avait un juge-arbitre, il y avait mon frangin, et puis. Je faisais les navettes le soir, je ramenais les gens de boîte de nuit à 5h du matin, j'étais à 7h sur les cours ici, je faisais 7 nuits blanches, c'était une semaine de dingue, je dormais 2 jours de suite en rentrant, et on faisait tout. C'était,
T'étais le Popeye des bronzés de l'époque.
Exactement. Mais le Popeye, on n'arrêtait pas, mais c'était génial. Et puis,
t'as de la nostalgie un peu de ces quelques premières années où c'est exceptionnel.
Toutes les années ont été... ont leur histoire, j'ai tellement eu d'histoires ici, tellement d'anecdotes, tellement de choses incroyables. On a eu tout ici, on a eu malheureusement des gens décédés, on a eu malheureusement des gens qui sont mariés, enfin heureusement des gens qui sont mariés, des naissances ici.
Bien sûr.
On a eu des couples que je revois maintenant, ils ont dit on s'est connus ici, ils viennent avec leurs enfants et leurs petits-enfants, tu vois, c'est extraordinaire.
C'est 34 ans de vie, quoi.
Et donc voilà, donc l'idée,
un état d'esprit,
Nassau et tout. Et puis dès la deuxième année, on a été démarcher Coca-Cola.
C'est eux qui sont venus voir.
Non, on est allé démarcher.
Ah d'accord.
Le siège de Coca-Cola, qui est, je ne sais plus où c'était, c'était pas au même endroit il y a 34 ans. Et on a été voir un gars qui s'appelle Jean-Michel Rottier, qui était à l'époque le patron du marketing, de la com, enfin, tu vois. Et puis le tennis, c'était à l'époque, ils étaient partenaires à Roland. Coca-Cola était très investi dans tout, hein, à l'époque. Ouais. C'était... On a fait 19 rendez-vous.
Ah oui.
19 rendez-vous, jusqu'au moment où ils nous ont dit, OK, on part avec vous.
Mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit pendant 18 fois? On va voir.
Plein de choses.
Laissez-nous revenir vers vous.
Pour la com, pour le machin. Et en fait, moi, j'ai grandi... Donc ils nous ont donné des moyens, ça s'est appelé le trophée Nassau Coca-Cola. Donc c'est parti avec la machine de guerre Coca.
Okay.
Donc quand je te dis la machine de guerre, moi la com, le marketing, la pub, tout ça, ben, je ne connaissais rien, je n'ai pas fait d'études, tu vois. Et j'ai appris mon métier avec le service
com de Coca.
Événementiel de Coca, com, publicité, avec une rigueur de dingue, avec tout ce qui doit être fait ici. Il n'y a jamais un truc où le rouge n'est pas parfait, où le logo n'est pas parfait, où tout est contrôlé, tout est machin. Et une machine de guerre derrière, en promo événementiel, ça veut dire qu'ici, tous les bars, tu as des vitrines Coca, les discothèques, c'est que du Coca, c'est des décors. Ils venaient avec des camions, avec des bateaux, avec des. Enfin,
Ça faisait combien d'éditions?
C'était la première.
Deuxième,
89.
Et là, tu t'es dit, c'est la ruée vers l'or parce qu'ils vous donnaient des gros moyens
des gros moyens.
Avec ton frère, vous deviez être comme des dingues.
Ouais, donc, c'est, je veux dire, on n'a jamais pensé à l'argent dans cet événement.
Ouais.
J'ai toujours fait et après me dire, bon, bah, ça rapportera ou pas.
En l'occurrence, l'argent est venu dès la deuxième année, c'est fou.
L'argent est venu dès la deuxième année. Bon, Nassau avait très peu de moyens, donc c'était... permettre de faire plein d'OP croisés d'un seul truc. On a rentré notre partenaire Philips, machin. Et puis bon, on a travaillé, on a doublé le nombre de gens, de qualifs, de trucs comme ça. Et puis, on a fait 2-3 ans Nassau Coca. Et ensuite, ils nous ont dit, bon les gars, Nassau, c'est bien, mais bon, où ça s'appelle Coca-Cola Tennis Cup. Et donc, on a fait la Coca-Cola Tennis Cup, toujours pareil, avec des moyens encore plus supplémentaires, puisqu'on leur donnait tout. Et puis, voilà, une machine de guerre en route derrière. Et puis, c'est passé après à Nesty. Donc, Nesty produit de la marque Coca-Cola, joint venture Nestlé Coca. Super idée parce que Nesty, c'est pas une boisson gazeuse, donc ça convient. Enfin, alors, en fait, Coca, nous, on travaillait une cible plus jeune, parce que c'est une boisson ado, gazeuse et tout. Et là, on est passé à Nesty, qui élargit complètement la cible. Okay. C'est-à-dire que c'est les enfants, les femmes, les parents, enfin les ados, les adultes, les seniors, ça correspond à tout le monde, et non gazeux, donc plus facile pour jouer
après
les matchs, pour boire pendant le truc. Ouais. Et Nesty, c'est tennis à l'envers.
Voilà. Brillant.
Brillant, tu vois. Et je leur ai expliqué ça au service marketing, et je suis tombé du mec. Ils m'ont dit, putain.
Pas écrit de la même manière, mais pourquoi pas.
Voilà, tennis,
tennis.
Et on a fait Nesty pendant plus de 10 ans, avec, je crois, une interruption l'année des Jeux Olympiques de Barcelone, où ils avaient une boisson pour tout le sport qui était Aquarius.
Ouais.
Donc ça s'appelait une année Aquarius Tennis Cup. Mais on a fait très longtemps Nesty. Les gens l'appellent encore aujourd'hui, certains, la Nesty.
Dans l'imaginaire, c'est la Nesty Cup, ouais.
Et donc, super partenariat avec plein de choses, des moyens, etc. Et puis, il y a...
Et puis, il y avait Kia aussi, en plus.
Ouais, t'avais Nesty, t'avais Kia, t'avais...
Kia qui a envoyé des gens en Australie, fait payer une semaine.
Donc, Kia, en fait, il était partenaire de l'Open d'Australie, principal. Et ils avaient dans le monde entier une épreuve de double mixte où les vainqueurs de chaque pays allaient jouer la finale mondiale de Kia lors de l'Open d'Australie, invités. Et donc ici, on a fait des épreuves Kia, mais colossales, avec un nombre de double mixte, et on a été élu meilleur qualif mondial du Kia Open. Voilà, du KAAO, Kia Amateur Australian Open. Donc ça a été des années... super, super fort, tu vois, avec des moyens, avec des voitures à gagner. On a offert ici, je crois, plus de 42 voitures.
Ouais.
Depuis le début, par tirage au sort, dans des conditions incroyables. Voilà.
Et à quel moment ces partenaires Kia se sont arrêtés et pourquoi ?
Kia, ils sont arrêtés il y a 3 ans.
Ouais.
3 ans, on a rattrapé Jaguar.
D'accord.
À la place, on a... Bon, et puis il y a...
Et Nesty ?
Il y a maintenant, je pense, un petit 10 ans.
Et pourquoi ?
Parce que ça s'appelle la National Tennis Cup.
Ouais.
Parce que dans les marques, si tu veux, ce qui était une opération française décidée par la France, les choses comme ça, tout a été géré et piloté par les États-Unis, les ordres. Donc le tennis ne faisait plus partie de la stratégie.
D'accord.
Donc plus à Roland-Garros, avec aucune de leurs marques. Donc le reste a subi le même. Terminé. Donc on a perdu en fait 50% de notre budget d'organisation.
Wow.
Tout en voulant continuer l'épreuve, en l'améliorant.
Voilà. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit on arrête parce qu'en fait on ne peut plus quoi.
Non. On a réduit la voilure de beaucoup de petites choses.
Ouais.
Même si on faisait gaffe, mais on a réduit la voilure. Et on s'est séparé avec mon frère.
D'accord.
Parce qu'on ne pouvait plus se payer sur l'événement à deux.
Ah ouais.
Donc on a arrêté. Ça a été un peu douloureux. Ça a été un moment assez difficile où c'est un peu moi qui ai... en fait, il y avait plusieurs activités dans la société. Et en fait, lui est parti sur un autre... toujours Nassau et tout ça. Et puis sur l'immobilier et tout ça. Et moi, j'ai pris le tournant.
Like.
Tout en voulant, on pouvait aussi faire le contraire, mais on a choisi nos trucs. Voilà. Bon, après, une décision un peu compliquée, mais en fait, c'était la seule solution pour pas couler, quoi.
Ah ouais.
Et puis donc toujours, en essayant d'être aidé par la Fédé, machin, et tout ça, ça marchait jamais. Enfin, c'était compliqué, avec des promesses, des trucs. Et puis on a regrignoté des partenaires à droite à gauche, et on s'est retrouvé. Un peu à l'équilibre, quoi. Plus de gains, mais à l'équilibre, tout le monde est payé. Moi, je paye tout le monde, j'ai pas de bénévoles, j'ai pas de...
Donc ça fait 10 ans de faire le dos rond pour que ça...
Ouais. Pas de la cavalerie, mais si tu veux, l'année suivante, payer les... Donc j'ai eu que des gens hyper sympas dans mes fournisseurs, tu vois, où j'allais expliquer les situations, expliqué les trucs. Tous ont été... Je me donnais des délais de paiement, Christophe, t'inquiète pas. Tout ce, tu vois, ici, comme beaucoup de relations de confiance, j'ai jamais planté personne ou machin, tout le monde est. Mais disons, des prêts bancaires, des, tu vois. Ouais. Et puis le Covid est arrivé, donc pareil, chaud. Donc, une année sans rien. Donc moi, c'était ma principale ressource de vie, quoi, tu vois. Ouais. Donc on a quand même été vachement aidé par le gouvernement, par tout ça. Mais on a fait des prêts PGE, tout ça, pour continuer. Et on s'est dit, 2021, il faut qu'on... Donc 2020, annulation du tournoi. Ouais. 2021, il faut qu'on bétonne, on fasse le mieux possible avec nos moyens. Vraiment. Et on a fait une édition l'année dernière, super, hyper dure. Hyper dure. À tout point de vue, le météo, froid, qui ne se voit pas par rapport aux participants, mais nous, derrière, on...
Dans le dur.
Dans le dur. Franchement, dans le dur. Mais on voulait vraiment montrer à la Fédé, qui maintenant était acquis, avec Gilles Moreton, il nous a dit maintenant, qui est venu, avec toute une équipe de présidents de ligue et tout ça, qui sont excusés de ne pas être là depuis tant d'années.
Ouais.
Et donc on s'est dit, il faut qu'on leur montre un bel événement. On leur a montré un bel événement. Super. Et après, c'est parti. On a préparé le passage.
Ouais.
Au moins, le passage, les gens me disent, ah, tu dois être triste, tu dois être déçu. Non, pas du tout. Au contraire, ce que je voulais, c'est que le tournoi perdure. Avec des moyens, avec l'état d'esprit, et moi je m'engage juste à préserver l'état d'esprit que j'ai donné depuis le début.
Donc là, tu as vendu à la Fédération Française de Tennis.
Donc voilà, moi je ne suis plus du tout propriétaire.
Et tu restes 3 ans patron, ça ?
Alors oui, ça fait que 4 mois hein, qu'on a signé tout ça,
ouais.
mais déjà ils m'ont dit tu ne restes pas 3 ans, tu restes 10 ans.
Ah là, donc, mais t'en penses quoi toi ?
Bah je... Ça dépend, tu vois. Moi, j'ai toujours travaillé. Moi, comme je dis, hein, je suis toute l'année en vacances et ouais. Je travaille tous les jours.
Ah ouais.
C'est ma vie, les vacances, le travail. Je profite de tout. Je joue au golf, je fais des trucs et tout, mais je travaille pas beaucoup. Enfin, je sais pas ce que c'est, travailler beaucoup ou pas. Je fais toujours tout. Faut que tout soit fait, sinon je dors pas. Tu vois, faut ouais. que les choses soient faites, les choses soient roulent, sinon je suis. Même avec un air détendu, machin, je suis toujours stressé, tendu, machin.
Avec un air de Popeye du Club Med de l'époque.
Et il faut,
ça bouillonne là-dedans.
Il faut que, ouais, il faut que. Et toujours, je pars, bon, beaucoup d'idées, beaucoup de trucs, machin. Et puis après, je me dis, bah, arrête, repose-toi. Et puis après, je repars. Donc il y a des.
T'as des vagues.
Donc si je continue à travailler dans cet état d'esprit, mais avec grand plaisir, je continue pendant. Avec peut-être une souplesse un petit peu d'organisation, de ouais. trucs, et qu'on me laisse un peu donner ma stratégie, je ne sais pas si c'est humaine ou je ne sais pas comment, mais voilà.
L'ADN du truc.
Et depuis qu'on travaille ensemble, ça fait maintenant 4 mois, donc ouais. c'est vraiment récent, je trouve que toutes les équipes avec qui je travaille, c'est dans l'esprit.
Okay.
Faut encore, mais de plus en plus, et qu'ils soient là et tous les jours. Et je vois, hein, je peux comparer avec des années où j'ai vu des gens arriver ici, de la fêlée, passer 2 heures, ils regardent. Mais là, ils sont dedans. Ils sont dedans. Le président, il est vraiment à 100% dessus pour mettre l'arme, toute la machine de guerre en route, ouais. tous les services. Nous, on est. Tout ce qui se fait dans le tennis, c'est applicable ici. Ici, on est un laboratoire du tennis. Format de jeu, 300-400 matchs par jour. Pour tester un format de jeu, c'est quand même formation d'arbitre,
ouais.
formation pendant 3 jours après en situation sur tous les matchs, formation de juge-arbitre. Mmh. Ici, c'est quand même un tournoi. C'est pas 32 joueurs, un tableau final. Ouais. C'est 300-400 matchs par jour, des reprogrammes. C'est vraiment. Quand tu sais être juge-arbitre ici, je pense que tu peux faire tous les tournois du monde.
C'est clair. Mais là, tu me disais, il y a 8
joueurs. Ramasseur de balles.
Ouais.
On met ici tous les mômes des parents qui se forment à être ramasseurs pendant 2-3 jours et ils font les finales avec les gens.
Ouais.
T'as des finales arbitrées par des vrais arbitres qui ont fait de la formation, avec des juges de ligne, avec des ramasseurs. Tu mets en situation des gens comme si tu étais dans un tournoi. Formation, tu peux tout former. Tu peux former des dirigeants ici, tu peux former des BE, tu peux former les profs de paddle.
Avec Olivier Le Thor.
Avec Olive, avec tout ce qui se fait. Le haut niveau, il doit être là. Mm. Il doit être là pour faire le passage au niveau machin. Les joueurs doivent être là. Pour y a énormément de... Et ça, Gilles, le président, l'a très bien compris. Et on va faire ça. Développer les pratiques, paddle, beach tennis, tennis fauteuil, il m'en manque un, tennis santé.
Ouais.
Donc développer aussi tout ça, avec des qualifs dans toute la France.
Ouais.
Ne surtout pas oublier les qualifs. pour les aider, pour donner du confort, déverrouiller les blocages, entre guillemets, politiques qu'il y a dans certaines ligues, machin, tout ça, on s'en occupe pas, nous, moi je suis là que pour le sportif, mais qu'il y ait des qualifs, que tout le monde dans chaque région puisse jouer les qualifs.
Et ça va drainer deux fois plus de monde quasiment, non ?
Ouais, on va passer dès l'année prochaine, je pense, à 100, 150 qualifs.
Et comment vous allez gérer déjà que c'est sur plusieurs sites ?
On va rajouter un site, on va améliorer peut-être quelques terrains, on va...
mettre du gazon.
Il y a plusieurs idées.
Trois surfaces. Voilà.
Okay. Augmenter le paddle.
Ouais.
Et puis en accompagnateur, en offre, tout ça, il va y avoir beaucoup plus de choses. Des joueurs pros vont venir.
Ça va décoller. Ça va décoller papier peint, comme on
ouais,
dit.
Ça, et puis ça va continuer pendant beaucoup d'années. Moi, je continue tant que tout ça se déroule dans l'esprit. Je pense qu'il n'y a aucune raison que ça... On oublie que le tennis, c'est, le tennis amateur, c'est 97%. Le haut niveau, c'est 3% du tennis.
Ouais. Vamos, hein. Voilà. Merci donc, pour vamos, ce tour super. D'horizon.
J'ai été complet.
T'as été concis, clair, surtout.
Concis.
Ouais, vraiment, pas de fioritures.
Et puis, on parlera de toutes les anecdotes qu'il y a eu pendant tant d'années ici.
On sera un épisode spécial anecdote de la NTC.
Voilà.
Si tu peux, d'ici l'année prochaine, te faire une note dans ton téléphone. Avec à chaque fois que tu as un souvenir, ah tiens, je le mets dans mon tel.
Anecdote du tennis.
Et l'année prochaine, avec Maya, on prend 16 heures non-stop pour enregistrer toutes les anecdotes. Voilà. Okay, ce sera ce qui s'appelle un podcast marathon.
Voilà.
Merci, Christophe.
Super, super, merci beaucoup à toi.
On se voit l'année
encore
prochaine.
Une fois, merci beaucoup d'être là. Maya, merci pour tes prises de vue.
Allez. Super. Ciao.
Boré ! Eh bien, il y en a une qui suit au moins. Panier ! Putain. Panier, panier. Ok, vous jouez. Récupérez-vous avec votre l'équipe adverse.
Ça s'appelle comment ?
Eh bien, on leur a dit. Et leur nom.
Là. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. Pensez à mettre un like sur la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait ou 5 étoiles sur les plateformes audio, Apple Podcast ou Spotify. Ça nous aide comme jamais à être mieux référencé, à faire connaître ce travail et à avoir des invités de renom à terme. Allez suivre l'Instagram de la National Tennis Cup ainsi que les contenus, les réseaux sociaux de la Fédé. Je renouvelle vraiment mes remerciements pour ce partenariat donc à la FFT. Un grand merci en particulier à Bénédicte et Laurent qui m'ont permis de œuvrer sur place avec aisance. Et c'était voilà hyper cool de se rencontrer. Merci également à toute l'équipe autour de Christophe Lesage. Je me suis senti comme à la maison, j'ai passé 2 jours exceptionnels. Un grand merci en particulier à Aurélie, la femme de JNL qui est passée sur le podcast et qui m'a fait me sentir comme à la maison. Merci aussi à l'équipe des chauffeurs de Nevers. Puisque, comme vous avez pu le comprendre, il y a un service chauffeur sur place. C'est grand luxe. Et j'ai retrouvé pas mal de personnes de mon club d'origine, de Nevers. Donc, quel bonheur de vous avoir retrouvé, les gars. Un immense merci aussi à JC Dominguez, que vous entendez à la toute fin de l'interview. Quel bonheur de passer du temps avec ce personnage haut en couleur. Je suis rentré à Biarritz sur un nuage. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à venir me proposer des idées, comme l'a fait Thierry Ley de la société Flexport, qui est donc présent sur place à la NTC, qui m'a dit sur LinkedIn, qu'est-ce que tu penses de venir faire une vidéo pour la National Tennis Cup ? C'est comme ça qu'il m'a gentiment orienté vers la Fédé, qui finalement s'est fait très vite et m'a permis de couvrir cet événement absolument génial. J'adore réaliser ces projets qui sortent de nulle part. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées, évidemment à plusieurs cerveaux on est toujours plus intelligent, on va plus loin. Et voilà, grâce à vous maintenant, j'ai la chance de faire des rencontres incroyables et de me permettre d'aller un petit peu plus loin dans les contenus que je vous propose. Pensez à récupérer les contenus offerts sur le mental et le cordage dans la description de l'épisode. Vous n'avez juste qu'à vous inscrire, c'est gratuit et ça peut vous aider considérablement dans votre jeu. 14 conseils de prépa mentaux et 5 secrets de cordage pour une tension et un produit mieux adapté à votre style de jeu. Voilà, qui va vous permettre aussi de physiquement vous épargner de certaines blessures. Ça joue considérablement.
On stagne un petit peu sur les notes Apple Podcast. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous êtes plus nombreux à aller sur Spotify ou Google Podcast ou Acast peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, depuis quelques semaines, on fait un peu du surplace. Il y a quand même un commentaire super sympa dernièrement qui me dit « Merci Max, toujours au top, ton podcast. Bien joué les ouvertures récentes faites sur D4, Service Volé. C'est sympa et ça donne envie d'aller voir. Par contre, tu devrais négocier une réciproque pour Service Vol qui te fasse une promo en retour. » Bon, bah ça, écoute, je fais confiance à la vie. Je pense que mon tour viendra. Mais en tout cas, merci pour ton commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à prendre votre plus belle plume. Ceci dit, vous êtes nombreux sur YouTube à mettre des commentaires et tous les jours, je me régale de vous lire. Mais les plateformes audio restent un peu le cœur du truc, même si YouTube prend le relais de plus en plus. Donc, si vous consommez le podcast au format audio, n'hésitez pas à venir faire un coucou et mettre un commentaire. Vraiment, ça met de l'essence dans le moteur, comme j'ai coutume de le dire régulièrement, pour continuer ce projet et aller de l'avant. Voilà. N'oubliez pas que vous êtes des ambassadeurs du podcast, le bouche-oreille. Vous êtes comme jamais à faire connaître le contenu, donc recommandez-le autour de vous, parlez-en à l'entraînement, en soirée, aux apéros, peu importe. Et envoyez les épisodes qui vous plaisent aux amis autour de vous, susceptibles d'aimer ce format. Voilà, merci par avance de m'aider à rayonner dans ce projet. Si vous voulez nous soutenir, il y a Tipeee, la plateforme Tipeee, qui est une plateforme de dons participatifs. Voilà, il suffit de taper T-I-P-E-E-E dans Google, et suivi de Tennis Légende Podcast. Et c'est relativement facile à trouver. Merci à tous ceux qui le font chaque mois. Et si vous voulez mettre votre pierre à l'édifice, bah voilà, c'est toujours un immense bonheur de se sentir soutenu. Si vous avez des idées comme Thierry, donc comme je vous disais pour cet épisode sur la National Tennis Cup, venez m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora ou envoyez-moi un mail à max@tennislegende.fr et n'hésitez pas à me suggérer vos idées. Je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Je terminerai cet épisode en remerciant une nouvelle fois donc la Fédé, Thierry et Maya de m'avoir aidé pendant ce dernier mois. Quel régal d'avoir enregistré ces contenus ensemble. Vraiment, merci. C'est un bonheur de vous rencontrer. Pour la petite histoire, Maya, c'est quelqu'un qui écoute le podcast, qui vit aux US et qui m'a filé un coup de main là sur un mois. Et c'est un vrai bonheur de connecter avec les gens qui me suivent depuis le début. Voilà. Donc sur ces belles paroles, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.